Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58 et vous êtes bien sur RMC, RMC Story. Excellent lundi à tous. Deux actualités à la une ce matin, le foot et la canicule. Dans 10 minutes, nous serons en direct avec le consultant RMC Eric Dimeco sur le deuxième match des Bleus. C'est ce soir, France-Irak, 23h. Est-ce que vous allez veiller, tiens, pour regarder la rencontre? Est-ce que ce match ne doit être qu'une formalité? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, tous les matchs comptent? Attention à tout. Allez, je vous attends au 32-16 et sur le WhatsApp 0612-424-424. Et puis l'autre sujet à la une, bien sûr, c'est la chaleur. 49 départements en vigilance rouge, canicule, des nuits tropicales, des journées dans la fournaise. Et ça pourrait durer jusqu'à ce week-end. Comment vous faites pour vous en sortir, que ce soit chez vous ou au boulot? Quels aménagements, quelles décisions? Et puis surtout pour garder les enfants, puisqu'il y a de nombreuses écoles qui sont fermées au moins cet après-midi. Je vous attends au standard RMC. Et ne manquez pas à 7h40, l'invité d'Apolline Matin, le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Est-ce que le gouvernement fait assez face à ces chaleurs? Étions-nous suffisamment préparé. Question donc à 7h40. Et puis la prime Coupe du Monde, elle a été gagnée, mais elle revient. Aujourd'hui, on vous redonne la possibilité de gagner après les 67 000 euros qui ont été gagnés la semaine dernière. Eh bien, on repart de 30 000 euros et on ajoutera 500 euros à chaque but marqué dès ce soir. Donc vous restez à l'écoute. Il y aura une alerte d'ici 9h. Soyez bien attentifs. Très bon réveil à tous, il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La galère pour des milliers de parents face au dilemme de l'école sous ces fortes chaleurs. Plus de 2600 établissements seront totalement ou partiellement fermés ce lundi. Il va falloir s'adapter. Et à midi, la moitié de la France sera plongée dans la fournaise. 35 millions de Français basculeront en vigilance rouge, canicule. Épisode inédit de par son ampleur et sa précocité amenée à durer sans date de fin pour le moment. Et on espère que les Bleus ne nous donneront pas trop chaud ce soir face à l'Irak. 23h avec déjà dans le viseur la qualification en 16e de finale de la Coupe du Monde.
Il est 7h01 et il fait déjà très chaud ce matin.
On a battu des records de douceur cette nuit dans l'Aude, aux heures censées être les plus fraîches. Et le thermomètre reprend déjà des couleurs. À la mi-journée, 35 millions de Français, je vous le disais, seront concernés par la vigilance rouge dans 49 départements. C'est inédit, 40 autres départements seront en alerte orange. Dans ces conditions, 845 établissements scolaires resteront porte close. Ce matin, décision prise au cas par cas, commune par commune, comme à Alfortville, où les parents sont contraints d'adapter leur planning. Martin Juret.
Ce matin, exceptionnellement, Béatrice n'emmènera pas sa fille Amélie à l'école. Elles passeront la journée ensemble à la maison.
Dans mon cas, ça va être du télétravail. J'ai un travail qui me permet ça.
Option choisie également par Stéphanie, avocate, pour garder son fils de 8 ans. Impossible, en revanche, de télétravailler demain.
J'ai une audience, donc ça, je peux pas. Je vais faire appel aux grands-parents si je peux, et puis sinon, je vais devoir potentiellement l'amener avec moi.
Hichem et sa compagne, eux, ont décidé de poser une demi-journée pour garder leurs deux enfants.
Entre les activités, le travail, etc., à un moment donné, il faut faire un choix et les priorités. C'est de s'occuper aussi des enfants. Si ça revient de manière répétée, ce serait un peu plus difficile sur le long terme.
Des solutions plus pérennes sont demandées depuis plusieurs années par Lionel Raffa, secrétaire général de la FCPE du Val-de-Marne, la fédération de parents d'élèves qui dénonce le manque d'anticipation.
On se retrouve avec des municipalités qui sont obligées de prendre le relais de l'État. Est-ce que c'est réellement à des collectivités locales de se préoccuper d'un souci environnemental?
Un seul établissement reste ouvert pour accueillir les enfants des personnels prioritaires comme les professionnels de santé et de sécurité.
1800 autres établissements adaptent leurs horaires. Ils seront fermés cet après-midi. La chaleur sur la table d'une nouvelle réunion interministérielle ce lundi, à l'heure où un premier bilan fait état de 3 morts. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC à Bordeaux ce matin en Gironde, là où ces 3 personnes âgées ont perdu la vie, décès attribué, Marion, aux fortes chaleurs.
Oui, ce sont 3 personnes âgées, une femme et 2 hommes de 80 à 95 ans qui ont péri chez eux à Senon, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Jean-d'Illac, 3 communes de la périphérie de Bordeaux où une attention particulière est portée aux seniors. Information et prévention, appel à ceux qui sont inscrits sur le registre canicule par des agents municipaux mais également des bénévoles. Une réserve citoyenne est mobilisée pour téléphoner ou apporter de l'eau à des personnes isolées. Tout le département est placé en vigilance rouge depuis hier midi. Le thermomètre affiche déjà 24 degrés dans le centre-ville où je me trouve. Il pourrait monter jusqu'à 43 dans la journée. Selon Météo France, cette canicule pourrait avoir un niveau de sévérité proche de celui d'août 2003 qui a fait près de 15 000 morts en France.
Marion Gauthier en direct de Bordeaux ce matin pour
RMC. Et c'est dans cette chaleur écrasante de la première nuit d'été que des milliers de Français ont célébré la fête.
Sans alcool, interdit sur la voie publique, là où la vigilance rouge est de mise, une mesure plus ou moins respectée, surtout moins, Marion Degas a pu s'en rendre compte dans le 10e arrondissement de Paris.
Oui, et très tôt dans la soirée, déjà, de nombreuses bouteilles d'alcool traînent sur le sol. Alors, quand j'évoque l'interdiction...
Honnêtement, ça paraît assez ridicule parce que tout le monde boit partout. Enfin, c'est impossible en soi d'interdire l'alcool dans une fête populaire comme ça.
Loan et Louise viennent d'acheter des bières dans un supermarché.
Tout le monde a son alcool. Puis même tous les bars, ils servent et il y a même des gens qui vendent sur place, quoi.
Avec des glacières et ils vendent des bières ou n'importe quoi.
En effet, de nombreux bars n'ont pas respecté l'interdiction de vendre de l'alcool à emporter. Certains avaient même déplacé leur comptoir dans la rue pour servir les fêtards. Et tout ça parfois même sous les yeux des forces de l'ordre, ce qui a étonné Lunia.
On est passé trois fois devant la police avec nos bières ouvertes. Ils n'en ont eu rien à faire. Ils ont laissé passer sans checker. Et donc on a juste... continuer à boire comme si rien n'était.
Beaucoup de fêtards avaient quand même prévu de l'eau, comme Manon.
On a toutes trois bouteilles d'eau dans nos sacs. Dès qu'on sent un peu qu'on a chaud, on boit de l'eau.
Avec cette chaleur, il vaut mieux être prudent, conclut cette étudiante.
Et certains ont profité de l'événement jusqu'aux premières lueurs du jour. L'idée, c'était aussi de pouvoir respirer un peu, se rafraîchir avant une nouvelle journée caniculaire. Géraldine Demory est restée avec nous. Comme hier, on pourrait battre de nouveaux records ce lundi, toute saison confondue. Et le pire, Géraldine, c'est que c'est qu'un début, le début de cette vague de chaleur qui va s'étendre dans la durée sans date de fin à ce jour.
Effectivement, à chaque fois qu'on entreaperçoit une date de fin, elle est finalement repoussée. Ce qu'on sait, c'est que là, on atteint quand même un palier au niveau des températures. Donc entre aujourd'hui et jeudi, ça va assez peu bouger. On reste à des niveaux extrêmement élevés, bien entendu. À partir de vendredi, on pourrait avoir une petite baisse. Mais attention, on va rester sur des températures qui vont rester quand même encore extrêmement chaudes. On attend un petit peu plus instable avec des orages. Et quand on regarde les modèles de prévision jusqu'à 14 jours, on ne voit pas de franche baisse de température. Donc ça nous emmène quand même déjà jusqu'à début juillet. Ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans une situation de blocage anticyclonique. On parle aussi de blocage en oméga, avec comme une poche au-dessus de la France, avec l'air chaud qui se retrouve sans porte de sortie, qui se réactive donc sans arrêt. Et effectivement, on est en train de dépasser ce qu'on a pu voir en 2022, en 2019, en 2003, avec un indicateur thermique qui devrait battre le record absolu de 29,4 degrés du 5 août 2003. Donc intensité remarquable, mais durée exceptionnelle aussi, puisqu'on pourrait bien dépasser les 15 jours, les 16 jours même de 2003.
La chaleur et ses conséquences avec ce matin des galères à prévoir dans les transports. Ce sera le cas en Ile-de-France avec la suppression de trains sur les RER B et D, mais aussi sur les Transiliens. Il est 7h07, vous écoutez RMC, une série d'erreurs individuelles et de dysfonctionnements à l'origine des failles dans l'enquête sur la plainte déposée pour viol l'été dernier contre Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Liana. Premier élément d'un rapport d'inspection remis à Sébastien Lecornu ce lundi.
Et puis tous les regards tournés vers Philadelphie dès ce matin.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
C'est là que les Bleus vont affronter l'Irak à 23h ce soir, heure française. Ce sera sur RMC, 17h, heure locale. Jean-Louis Tour, vous êtes sur place pour RMC. Vous serez au commentaire de cette rencontre, la deuxième du mondial pour les hommes de Didier Deschamps, qui vise la qualification dès ce soir et qui auront aussi la tâche de corriger quelques petites imperfections, celles du premier match.
Oui, d'abord montrer que la première période contre le Sénégal est oubliée. Il faudra pour cela afficher le même visage qu'en fin de match où les Bleus ont mis 3 buts en quasiment 30 minutes. Pour cela, Deschamps devrait reconduire l'animation offensive de la deuxième période. Michael Olysée à côté de Kylian Mbappé en voyant Ousmane Dembélé sur le côté droit. Dembélé, le ballon d'or défendu hier par le capitaine Mbappé et par son sélectionneur pour son rendement éloigné de ce qu'il montre avec son club, le PSG. L'animation offensive sera scrutée, tout comme la performance des 3 joueurs qui débuteront la rencontre et qui étaient remplaçants contre le Sénégal. Bradley Barcola en attaque à la place de Désiré Doué, Manu Koné au milieu de terrain, suppléant Aurélien Tchouaméni et Lucas Digne pour installer une concurrence avec Théo Hernandez au poste d'arrière-gauche. On attend aussi un meilleur Mike Maignan dans les buts pour faire oublier les hésitations du Sénégal. L'adversaire semble tout indiqué pour se rassurer, même si Deschamps ne veut pas prendre l'Irak à la légère, rappelant ses résultats récents, dont un nul début juin contre l'Espagne.
Jean-Louis Tour, qu'on retrouvera donc ce soir au commentaire de ce France-Irak sur RMC, 23h, à retenir également la victoire de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite, 4-0. Les Espagnols avaient fait match nul face au Cap-Vert, ils ont récidivé et accrochent l'Uruguay de partout. La Belgique bute sur l'Iran, match nul et vierge. Et puis ce matin, l'Égypte a battu la Nouvelle-Zélande, 3-1, vous l'avez vécu sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC, vous avez chaud, tous très très chaud. Il y a Mathieu qui nous a appelle de l'Isère. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Comment ça va Mathieu? Vous faites du trail, vous faites de la course à pied et là vous continuez malgré la chaleur?
Ouais, bah là actuellement j'étais en train de vous écouter, en train de courir justement, donc c'est pour ça que j'en profite pour vous appeler.
Ouais.
J'entendais Anthony Morel qui présentait des applications pour pouvoir utiliser son smartphone pendant ces températures bien élevées.
Ouais, bah, du coup vous êtes dit je vais tenter le coup.
Ouais, c'est ça, parce que en fait moi j'utilise une application donc par rapport à la course à pied.
Ouais.
Qui s'appelle WAFAP.
Oui.
Et du coup qui est une application où on peut. C'est un peu comme Waze pour la route, en fait, on peut trouver tous les points d'eau, toutes les zones éventuellement de danger, tout ça.
Mais y compris aussi les questions pour se rafraîchir, c'est-à-dire les ruisseaux,
exactement.
Les points d'eau.
Ouais, c'est ça, on peut trouver tous les points d'eau et on peut même, moi ce que je fais, c'est que je mets mon parcours en avance avant de partir courir, comme ça je peux vérifier que sur l'itinéraire, j'ai tout ce qu'il faut. Pour être tranquille, parcourir.
Non mais vous m'épatez. Et alors j'avoue que me dire qu'on vous accompagne dans ces moments, ça me fait très très plaisir. On vous tient la main quand même un petit peu. Enfin je sais pas si c'est vous qui nous entraînez ou nous qui vous entraînons, pour être tout à fait honnête, un peu des deux. Mathieu, est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que parce que quand même pour faire du trail le matin, est-ce que vous le faites un peu plus tôt que d'habitude ou vous gérez?
Ouais, bah là je suis passé en mode en heure d'été, hein, clairement. Là je me suis levé ce matin à 5h30 pour pouvoir aller courir à la fraîche.
Okay.
C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable hein, que de partir en plein milieu d'après-midi.
Et le soir, vous vous couchez à quelle heure du coup?
Bah le soir, ça dépend s'il y a des matchs à regarder ou pas.
Voilà, c'est
avec
ça.
La Coupe du Monde.
Ce soir, vous allez veiller malgré tout?
Non, je pense pas. Non, je vais être raisonnable. Je vais me coucher bonne heure et me relever demain matin un peu plus tôt pour aller courir.
Merci beaucoup Mathieu en tout cas de nous avoir fait partager. Donc redites-moi, c'est WAFAP, hein?
Ouais, c'est ça. WAFAP, W-A-2-F, app comme application.
Le Waze des coureurs du matin. Merci en tout cas Mathieu, il est 7h11 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il va falloir veiller tard ce soir parce qu'après la victoire inaugurale, les Bleus affrontent l'Irak pour leur deuxième match de Coupe du Monde et ce sera à 23h. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline.
Eric, notre fil rouge tout au long de la compétition, ancien international français, consultant RMC. France-Irak, 23h ce soir avec des changements d'abord par rapport au premier match.
Oui, on nous annonce 3 changements. Alors on les attendait un petit peu, hein, notamment la présence de Lucas Digne au poste d'arrière gauche. Voir Manu Koné au milieu de terrain, c'est aussi normal parce que on se rend compte que sur ce match-là, Didier a peut-être envie de voir certains garçons. Et je suis particulièrement content de voir Barcola en pointe parce que ce garçon amène toujours quelque chose quand il rentre. Il a cette vitesse, cette profondeur, et je l'ai trouvé bon sur le dernier match quand il est rentré. Il a mené beaucoup de peps et je pense qu'il peut jouer une place de titulaire dans cette équipe.
Et alors, il ne faut pas prendre l'Irak à la légère. C'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Louis Tour en direct des États-Unis. Chaque match compte et ce soir, ça peut aussi être quand même une difficulté.
Alors, une difficulté, peut-être pas. Non, mais probablement.
J'aime bien parce que Eric, je sens que là, vous voulez pas totalement me contredire. Mais vous pouvez, hein. Vous pouvez me dire
non, mais
c'est du délire. Ok.
Non, mais on a vu encore l'Iran hier soir. On a vu le Cap-Vert qui fait des résultats. Donc les équipes maintenant, même les petites équipes, celles considérées comme des petites équipes, sont bien préparées physiquement, tactiquement. Généralement, elles ont un staff aussi qui tient la route. Après, c'est qu'une question de talent. Donc il faut se méfier. Si on fait pas le job, on peut être embêté. Et je pense que Didier, puisque c'est quand même le match le plus simple de la poule, je pense que Didier veut vite tuer ce match-là pour faire tourner et reposer ses garçons parce que le dernier match de poule va être important pour la première place.
Et c'est ça ce qui va se jouer aussi. Philippe tient en direct avec nous, qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Philippe.
Ouais, bonjour.
Comment ça va Philippe? Vous bossez dans le sport, hein?
Bonjour.
Ouais, je suis préparateur mental.
Préparateur mental pour des sportifs de haut niveau?
Pour tout type de niveau en fait, pas que pour des sportifs d'ailleurs. Pour des étudiants, pour des entreprises, mais principalement des sportifs. Ouais.
Donc la concentration, Philippe, il faut être concentré ce soir. À l'instant, Eric Dimeco évoquait aussi Cap-Vert, qui a quand même fait match nul avec l'Espagne, donc qui s'est retrouvé quand même face à un os. La Belgique face à l'Iran. On se dit du coup que chaque équipe peut avoir sa surprise. Hein.
Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que il y a la phrase facile de, il y a plus de match facile, mais c'est vrai que il y a plus de petites équipes non plus. Je crois que c'est vrai. Bah, je pense que les équipes qui sont un peu moins fortes techniquement jouent très bas. Souvent, c'est les blocs bas. Du coup, ça a beaucoup moins d'espace et du coup, beaucoup plus compliqué de se créer des occasions. Donc, c'est ce qui va être le lot du match de ce soir, je pense.
Vous allez veiller, Philippe.
Alors je vais veiller la première mi-temps, je pense, parce que je me lève à 5h demain matin, donc je vais essayer, ouais, quand même d'être un peu plus raisonnable. Bon, après il fait 35 degrés, donc je sais pas si je pourrais dormir avant, de toute façon.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un bon prétexte, ouais. C'est que de toute façon on se dit qu'on aura du mal à dormir, donc autant en profiter. Eric, si on passe effectivement ce soir, je dis si parce que je suis quand même toujours superstitieuse, donc je fais gaffe. Eric, si on passe, effectivement c'est direction pour le coup les 16e de finale.
Alors oui, bien sûr, avec deux victoires on est qualifié, mais je le disais tout à l'heure, il y a une donnée importante en finissant premier. Malgré tout, on s'offre un tableau un petit peu plus facile et la finale de ce groupe-là serait contre la Norvège, un match attendu finalement contre une équipe on connaît pas mal de joueurs, mais collectivement, on les joue rarement. Voilà, donc ça va être un match excitant. Et c'est pour ça que je pense que Didier voudra avoir toutes ses forces sur ce match-là, et notamment ses forces physiques. Donc ça m'étonnerait pas de voir 5 changements assez rapidement ce soir quand l'équipe de France aura fait le job.
Pour pas user nos joueurs, 100e match de Kylian Mbappé ce soir. Les deux buts au premier match, capitaine. On a l'impression que finalement, il y a eu vraiment amour-haine ces derniers temps. Mais ça y est, tout tourne autour de lui à nouveau.
Oui, c'est un petit peu l'histoire de ces joueurs-là et toutes les nations ont un garçon qui, enfin toutes les nations, non peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui sont programmées pour aller au bout, elles ont ce joueur-là qui est capable de faire gagner un match à tout moment. Voilà, on a vu l'Espagne qui était en difficulté, bah, ils ont fait rentrer Yamal sur le deuxième match et de coup tout se libère. On ne va pas parler de l'Argentine, champion du monde en titre avec Messi qui avait amené ses partenaires sur le toit du monde. Donc c'est l'histoire des joueurs stars. Et des équipes qui ont beaucoup d'ambition.
Merci beaucoup Eric Dimeco, donc en direct évidemment avec nous pour suivre cette Coupe du Monde, et merci à Philippe qui veillera ce soir au moins pour la première mi-temps. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RMC, avant match dès 18h, after foot jusqu'à 5h du matin, RMC radio officielle de la Coupe du Monde. Et tiens, ne manquez pas à 7h50 la voix de droite, c'est lundi, c'est Louis Sarkozy, et il reviendra sur ces joueurs de foot qui choisissent ou non de mettre la Coupe du Monde sur pause pour partir assister à la naissance de leur enfant. Ça fait polémique et vous entendrez la voix de droite Louis Sarkozy revenir dessus à 7h50. Mais pour l'heure, il est 7h20 et dans un instant, on va remonter l'histoire avec Arthur Chevalier. Arthur qui va revenir sur la chaleur, et c'est un phénomène pas si nouveau. Voilà ce que nous dira l'historien d'Apolline Matin. Dans à peine 5 minutes, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Essayez de comprendre ce qu'il se joue en ce moment. Est-ce que la guerre est finie? Je lui poserai la question de la guerre en Iran, bien sûr. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC et RMC Story, quand l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. L'historien d'Apolline Matin sera de retour en direct demain. Ce matin, on revient avec lui sur la canicule. La moitié de la France en alerte canicule rouge, une situation alarmante.
Oui, Apolline, la canicule a un mérite, c'est de nous faire ressentir les choses. Ces chaleurs étouffantes nous mettent tous d'accord, tout simplement parce qu'on en souffre. Le dérèglement climatique, ce n'est pas que des statistiques, c'est aussi une réalité physique et très concrète.
D'abord, d'où vient ce mot de canicule?
Alors, ça vient du latin canicula. Sous l'Antiquité, ça désignait une étoile de la constellation du Grand Chien. Et canicula, eh bien, très logiquement, ça veut dire petite chienne. Et oui, après le soleil, c'était l'étoile qui brillait le plus depuis la Terre. Donc les Romains ont eu l'idée d'associer le nom de cette étoile et l'époque de l'année où on la voyait le mieux, c'est-à-dire en été. Voilà comment on est arrivé au mot de canicule.
Donc le phénomène des grandes chaleurs, c'est pas nouveau.
Alors d'abord, rappelons que les études précises sur le climat, ça ne date vraiment que du 19e siècle, donc c'est plutôt récent, même si on avait déjà des mesures de température depuis longtemps. Mais avant ça, on a quand même des témoignages qui nous donnent des indications. C'est le cas pour l'été de l'année 1636. Cette année-là, une chaleur insoutenable recouvre la France. La pluie se raréfie. Du coup, le niveau des cours d'eau baisse dangereusement. Et forcément, l'eau qu'on buvait devient vaseuse et croupie. Et forcément, on attrape des maladies totalement mortelles pour l'époque, comme la dysenterie qui était une sorte de diarrhée mortelle. Bref, tout ça a été une hécatombe totale. 500 000 morts, Apolline, pour l'été 1636.
500 000 morts en 1636, c'était déjà un sujet prioritaire pour les pouvoirs publics ?
Oui, la température était déjà le sujet numéro un des conversations hein, et les conséquences étaient catastrophiques. Les canicules, évidemment, impactaient les récoltes. Se nourrir devenait à la fois très difficile et très cher. L'État était donc sommé de réagir et il le faisait tant bien que mal. Hein. Par exemple, à la fin du XVe siècle, le roi Louis XI impose un contrôle des prix en période de canicule. Plus tard, Louis XIV fera des réserves de blé et ira jusqu'à interdire les exportations pour se prémunir des pénuries.
Récemment, on a eu des canicules comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui ?
Alors, pas la même fréquence, évidemment, mais ponctuellement, ça pouvait y ressembler. C'est notamment le cas de l'été 1911, un des plus meurtriers du XXe siècle, à Paris, le 4 juillet, donc à peu près à la même époque qu'aujourd'hui. Il fait 34 degrés. Au mois d'août, le thermomètre ne descend pas sous 30 degrés pendant 15 jours. Une chaleur meurtrière, les vieilles personnes et les nourrissons s'entassent dans les hôpitaux. Et au total, c'est quand même 46 000 personnes qui vont trouver la mort, dont 30 000 enfants.
46 000 morts
dont 30 000 enfants.
En 1911, dont 30 000 enfants. Et puis bien sûr, il y a eu la canicule de 2003.
Oui, la canicule de 2003, c'est évidemment un tournant apocalyptique des chiffres dans l'Hérault. On atteint 46 degrés, un record à ce jour inégalé. À Paris, il fait 39 degrés pendant 9 jours. En France, on dénombre 15 000 morts quand même. Bref, 2003, c'était évidemment catastrophique et très grave en soi. Mais le problème, c'est que depuis, ça se multiplie et que c'est de plus en plus rapproché. Peut-on réellement accepter de vivre dans ces conditions ? C'est évidemment inhumain, c'est pourquoi la lutte pour le climat est vitale.
7h25, merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud. Bonjour. À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, mon invité dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel.
Ben oui, Gilles Kepel, l'homme Kepel. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour Apolline. B-O-N-J-O-U-R-A-P-O-L. Non, Gilles Kepel, on va pas tout épeler. Si j'y tiens, J-Y-T-X, ça va être méga long. Alors, on va parler évidemment de l'Iran, car là-bas aussi, c'est la canicule. Il fait 37 degrés à Téhéran, 38 à Ispahan, et pour la fête de la musique, pas d'alcool. Et pas de fête.
Et pas de fête d'ailleurs, oui.
Et pas de musique. Tout a été interdit depuis 78. C'est-à-dire s'ils sont pionniers dans la gestion de canicule, hein, ces gens-là. Pas étonnant que LFI les soutienne. Alors, les négociations entre les États-Unis et l'Iran pour trouver une paix durable au Moyen-Orient ont débuté dimanche dans un hôtel de luxe en Suisse. Le Burgenstock.
Oui, c'était difficile.
Très mauvaise idée d'ailleurs de négocier la paix dans un palace climatisé en Suisse. Les mecs vont vouloir y rester le plus longtemps possible. Évidemment, on va traîner les discussions. T'en as aucun qui va vouloir quitter un paradis pareil. Encore moins pour retourner en Iran ou auprès de Donald Trump. Non, fallait faire ça à l'hôtel Ibis Style de Marc-en-Barœul.
Voilà, là, ça aurait été
d'Ascq, avec ça, quoi. Une belle vue sur la bretelle de l'autoroute A22, sans petit-déj inclus. Là, en 2 heures, c'était réglé comme conflit. Alors, les négociations sont vachement difficiles. J'ai vu que les Iraniens sont furieux parce que Donald Trump a menacé sur les réseaux sociaux de reprendre les frappes sur l'Iran si ce dernier ne contrôlait pas mieux le Hezbollah libanais. Et l'Iran s'est senti insulté. Franchement, je l'ai vu le message. Hein. Ça va, ça va. Il y a eu pire comme insulte hier soir. Les Iraniens, vous auriez ouvert les réseaux sociaux entre 21h et 23h. Là, t'en avais des bandes d'enfoirés. Allez vous faire foutre aux chiottes, les Iraniens. Alors, pas de la part de Trump, mais de la part des supporters belges.
Oui, voilà.
Parce que leur équipe, elle a pas réussi à battre l'Iran hier. Comme Donald Trump. Notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, John Christmas Big Dick,
yes,
disent les Américains. Il ira aujourd'hui en Suisse pour acheter des chocolats.
Oui.
Non, parce qu'à part ça, je vois pas bien ce qu'il va faire. Hein. C'est pas comme si on avait eu une énorme influence sur le conflit jusque-là. Nous, on se pointe à la troisième mi-temps, en fait. On est pépère. Les gars, bravo, on a été bons, c'est super. On a enfin arrêté la guerre. Alors, on règle les derniers détails. Excuse-moi, t'es qui, toi, à la base ? Ben, je suis la France, parce que nous, on a été aussi crédibles et audibles pendant ce conflit que Carla Bruni pendant un concert.
On est... Oui, il m'a dit, je crois, il était fermé.
Allez, bon courage à Johannes Weihnachten, grosse schlong, Jean-Noël Barrot, et rendez-vous avec Gilles Kepel à 8h30.
Mais on vous retrouve d'ici là à 8h15, Arnaud Demange, comme tous les matins. Il est 7h28, à tout de suite pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La fête de la musique s'éternise à Paris. Quelques fêtards encore présents sur les quais de Seine et certains profitent des températures plus douces pour respirer. 35 millions de Français à la recherche de fraîcheur et la France au ralenti. Elle vient de connaître sa nuit la plus chaude depuis 7 ans. Et les supporters des Bleus donnent de la voix devant la statue de Rocky Balboa avant France-Irak à Philadelphie.
La fête de la musique joue les prolongations ce matin à Paris.
Malgré la fournaise des températures records, des milliers de personnes se sont rassemblées cette nuit pour fêter la musique dans la capitale. Justement, Cassandre Brault, vous êtes en direct des Quais de Seine pour RMC. Quelques franciliens continuent ce matin de faire la fête et certains sont là surtout pour profiter des températures un peu plus douces.
Oui, encore un peu de jeunes ce matin. Ils jouent les prolongations et doucement prennent le chemin du retour. Il fait déjà 25 degrés ici à Paris. Alors l'arrêt obligatoire, eh bien, c'est la fontaine d'eau. Les jeunes viennent s'hydrater, remplir leurs bouteilles, s'asperger le visage, la nuque et chercher un peu de fraîcheur au bord de la Seine. J'irais même jusqu'à dire qu'on sent une légère brise ce matin. Certains sont encore en maillot de bain, lunettes de soleil, éventail et même avec le petit ventilateur portable. Les jeunes prolongent la soirée de la fête de la musique exprès pour cette fraîcheur. C'est le cas de Ilias et Naïla.
Vraiment là on ne veut pas se mettre entre quatre murs et subir. Ça va venir là je pense d'ici quelques heures. On essaye de se rafraîchir au maximum du coup avant.
Il fait un peu bon vu qu'il y a, il y a la Seine, il y a l'eau, du coup il y a un peu plus d'air frais. Et après bah, on rentre à la maison avant que le soleil sorte.
Voilà, et les quais parisiens se vident petit à petit. Les fêtards laissent place aux premiers joggeurs qui profitent des températures un peu plus clémentes pour faire leur sport du matin.
Cassandre Brault en direct des Quais de Seine à Paris pour RMC, toujours en région parisienne. Galère sur les rails, suppression de RER et de Transilien. Seul le RER A circule normalement aujourd'hui. Et cette chaleur écrasante rend le travail difficile et bouscule le quotidien de 35 millions de Français. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct d'Auch dans le Gers, département en vigilance rouge, où le thermomètre va sûrement dépasser aujourd'hui les 40 degrés. Et sur place ce matin, la vie tourne au ralenti.
Oui, il n'y a pas grand monde effectivement sur cette terrasse, mais il y a de la végétation, un petit peu de végétation, une dalle en béton au sol. Bonjour Nelson.
Bonjour.
Vous êtes le serveur ici du Café d'Arol. Il paraît que les gens viennent malgré tout sur cette terrasse, pourquoi ?
Alors oui, ils viennent parce que on a la chance déjà d'avoir une terrasse entièrement ombragée, puis par rapport aux arbres et les courants d'air qui circulent sur la terrasse, ça donne un petit frais que les gens n'ont pas de partout en ce moment.
Et pourtant, il y en a qui veulent rentrer aussi à l'intérieur, pourquoi ?
Alors, parce qu'on a la climatisation et qu'avec cette chaleur, forcément, on s'y sent mieux à l'intérieur.
Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours très élégant, vous avez la cravate, le petit gilet noir, c'est pas trop difficile ?
Un petit peu, mais on s'adapte, on n'a pas le choix, ça fait partie du travail, on s'hydrate beaucoup, voilà, on boit beaucoup d'eau et puis on fait aller.
Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici sur place, on ne consommera pas certains plats. Le magret de canard est à bannir aujourd'hui, le cassoulet de Castelnaudary également. Aujourd'hui, c'est salade, beaucoup d'eau et beaucoup de glaçons.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Auch dans le Gers pour RMC. Le système scolaire perturbé aujourd'hui par cette canicule. Près de 850 écoles fermées, 1800 aménagent leurs horaires et report des euros de bac pour 4000 candidats dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier ou encore Poitiers. Et les hôpitaux, eux, sont en alerte. Forte hausse des appels au SAMU, plus 30% selon la ministre de la Santé Stéphanie Rist et surtout des soignants déjà très préoccupés, Solène Leroux.
L'inquiétude est évidemment plus grande dans les départements en vigilance rouge.
Plus qu'inquiet, hein.
Louis Soula, chef des urgences du CHU de Rennes en Ille-et-Vilaine.
On fait le passage aux urgences, c'est 10 à 20% de passage en plus et on commence à saturer et on commence à avoir pas mal de patients sur brancard.
Dans un département moins habitué aux canicules, épisode redouté aussi dans le Nord, en vigilance orange, Nicolas Winter est praticien aux urgences pédiatriques de Valenciennes.
On n'a pas forcément des locaux les mieux adaptés pour faire face à ça, hein. On a un climatiseur mobile, mais qui n'est pas forcément encore très efficace. On a des ventilateurs, hein, mais on n'a pas forcément grand-chose d'autre à disposition.
Dans le sud de la France, plus accoutumé aux vagues de chaleur, ce ne sont pas les locaux qui préoccupent Pierre-Marie Tardieu, chef de pôle des urgences du CHU de Nice.
Nous, ce qui nous fait peur, c'est la durée, en fait. Qu'est-ce qui va se passer si ça dure 5, 6 jours, 7 jours et s'il y a des patients un petit peu vulnérables qui vont décompenser pendant ces journées.
Des patients qu'il faudra potentiellement hospitaliser. Ensuite, c'est ce qu'appréhende aussi une urgentiste d'Avignon dans le Vaucluse. Je la cite, je l'ai dit à mes collègues, c'est le calme avant la tempête.
Et la canicule a fait 3 morts en Gironde, une femme et 2 hommes âgés de 80 à 95 ans, annonce la préfecture du département. Et un adolescent est mort noyé hier dans une rivière à Poitiers. Cette alerte inquiétante de Météo France ce matin, cet épisode caniculaire va se poursuivre, voire s'aggraver. Une canicule historique qui dépasse tout ce qu'on a connu en 2003, 2019 ou 2022. Une nouvelle cellule interministérielle de crise est prévue en fin d'après-midi à Matignon.
Et justement, à 7h40, mon invité, donc dans moins de 10 minutes sur RMC, ce sera le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Est-ce que la France s'est suffisamment préparée pour ces vagues de chaleur? Je lui pose la question donc dans un instant.
Et c'est à vivre ce soir sur RMC, France-Irak à Philadelphie.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et la fête a déjà commencé. Les supporters français font monter la pression à quelques heures du deuxième match des Bleus, Florent Germain.
Oui, après avoir mis l'ambiance sur Times Square à New York, les supporters français se sont rassemblés à Philadelphie devant la statue de Rocky Balboa, un lieu emblématique de la ville. Mais ce sont d'abord les Irakiens qui ont donné de la voix.
Oui, on sautait ensemble tout à l'heure. C'est vraiment amical entre les Français et les Irakiens.
Pensez à cette scène de Sylvester Stallone qui lève les poings au ciel. Voilà qui peut donner de la force et de la confiance avant France-Irak.
On vient d'arriver là tout à l'heure à Philadelphie. La ville est géniale. Le groupe de supporters... On est tous là, tous ensemble, et on s'amuse, et allez les Bleus.
Je pense qu'il faut être à la hauteur de notre réputation de Français, d'être prétentieux, je pense que ça va être facile.
Et attention à la malédiction, les irrésistibles Français ont lancé un appel aux supporters, surtout ne pas habiller la statue aux couleurs de la France, il paraît que cela porte malchance.
Il y a une superstition autour de la statue de Rocky qui est derrière moi, où il faut éviter de l'habiller des couleurs de son équipe, parce que a priori ça l'a fait perdre. C'est un usage local, on s'y est plié pour éviter de donner un peu de malchance à l'équipe de France.
Superstitieux et ambitieux, les supporters bleus espèrent que la France mettra rapidement KO l'Irak tout à l'heure à Philadelphie.
Coup d'envoi de France-Irak à 23h. 3 autres matchs au programme. Argentine, Autriche, Norvège, Sénégal, Jordanie, Algérie. Toutes les rencontres sont commentées en direct sur RMC, sur la radio digitale 100% Coupe du Monde. 2 matchs nuls. Surprenant cette nuit au Mondial. La Belgique et l'Iran se sont quittés sur le score de 0 partout et 2 partout entre l'Uruguay et le Cap-Vert.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Lyon-Paris à 13h35.
Le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 3 Ziggy Star, son outsider, le 5 Cléodore.
C'était le journal de Clément Gouitz à 7h37. Il y a le quintet pour gagner, mais il y a aussi la prime de match. Oui, vous l'entendez, vous les entendez, tous ces chiffres qui tournent, tous ces euros qui vont être engrangés parce qu'on remet en jeu la somme de 30 000 euros et on ajoutera 500 euros par but marqué à partir de ce soir. Le montant va donc très très vite augmenter. Sachez que le gagnant de la semaine dernière a gagné 67 500 euros. Donc inscrivez-vous tout de suite. Il faut retenir le montant de la prime parce qu'à tout moment on peut vous appeler. Et plus il y a de buts, plus vous avez d'argent et plus vous avez de chances de gagner beaucoup beaucoup d'argent. Vous envoyez but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, il est 7h38, vous avez donc jusqu'à 7h48 pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
49 départements en vigilance rouge, canicule, un record, déjà 4 décès dus à la chaleur, plus de 900 écoles totalement fermées et des centaines d'autres partiellement fermées. La France brûle. Est-ce que nous regardons ailleurs? Bonjour Mathieu Lefèvre. Vous êtes le ministre délégué de la Transition écologique. Le gouvernement a-t-il redécouvert le problème? C'est ce que dit LFI, c'est ce que disent les écolos. Je vous pose la question dans un instant. 7h39.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On n'a jamais eu aussi chaud, aussi tôt dans l'année, aussi longtemps. Que fait le gouvernement? C'est vous, Mathieu Lefèvre, qui me répondez. Vous êtes le ministre délégué à la transition écologique, réunion de crise ce matin. On va y revenir, mais attention, je voudrais juste vous alerter parce que je vois qu'il est 7h42. Vous avez jusqu'à 7h48 pour gagner la prime de match. N'oubliez pas, vous envoyez but au 7-32-16. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais je ne voudrais pas que ceux qui peuvent remporter plus de 30 000 euros passent à côté. 7h43 sur RMC. Monsieur le ministre, Manuel Bompard hier de LFI vous accuse, je cite, de redécouvrir le problème à chaque canicule. Bon, il n'a pas tort.
Écoutez, depuis 10 ans, le budget de l'écologie a été multiplié par 2. On a fait 3 plans d'adaptation au changement climatique. On maintient des niveaux de financement, par exemple, sur le fonds chaleur pour développer des réseaux de chaud et de froid dans les villes. On maintient un haut niveau de dépenses en matière de prévention des risques. On a rénové 3600 écoles depuis 2022. On a renaturé plus de 1000 hectares dans les villes depuis 2022. Et Monsieur Bompard, lui, depuis 2022, il propose de censurer tous ces budgets qui auraient permis tout cela. Au passage, M. Bompard, avec ses alliés du Rassemblement National, ont proposé de censurer la programmation pluriannuelle de l'énergie qu'a courageusement présenté le Premier ministre.
Ses alliés du RN
Ils sont alliés objectifs dans l'absence de souveraineté du pays. La France a besoin d'avoir une énergie décarbonée, de jouer sur ses deux jambes, sur le nucléaire, sur le renouvelable, de se donner de la visibilité. La France a également besoin d'un grand plan d'électrification comme le présente le Premier ministre.
Si je vous écoute, vous avez l'air de dire que bon, ça va, qu'on a fait ce qu'il fallait. Quand vous avez vu, j'imagine, comme nous tous, ces images de parents, d'élèves qui se retrouvent à se coordonner pour essayer le matin d'arriver avec des scotchs et des couvertures de survie qu'ils scotchent eux-mêmes sur les fenêtres des classes de leurs enfants. Franchement, est-ce que vous estimez que la France était prête?
Je ne dis pas qu'on a tout bien fait et que tout est parfait. Il faut évidemment aller encore plus loin. On fait face à des vagues de chaleur qui sont absolument inédites dans leur précocité, dans leur intensité, à raison du dérèglement climatique que nie d'aucun. Donc il faut continuer à nous préparer. Ce que je dis simplement, c'est que le gouvernement ne découvre pas le problème. Ça fait depuis le début du quinquennat du président de la République que nous jouons sur nos deux sujets, qui sont d'abord atténuer le dérèglement climatique, ça c'est tout l'enjeu notamment du plan d'électrification, et continuer à nous adapter en rénovant des bâtiments publics, en renaturant les villes.
Il y a deux choses. Quand vous parlez du fait de lutter contre le dérèglement climatique, il faut reconnaître que les chiffres de l'INSEE à cet égard sont extrêmement positifs. La France a réussi à faire baisser de 25% ses émissions de gaz à effet de serre. Et ça, il faut le dire, parce qu'effectivement, quand ça marche et quand ça va dans le bon sens, ça baisse. Mais dans le même temps, il y a la question aussi de vivre ces étapes, ces moments de chaleur qui vont durer. Jean-Marc Jancovici, qui était mon invité vendredi, disait que pendant encore plusieurs années, peut-être même dizaines d'années, ça allait continuer à monter parce qu'on dépend pas seulement de ce qu'on fait nous, mais aussi de ce que font le reste des pays. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, comme on le disait, il y a quand même 4 personnes âgées déjà qui sont mortes, en tout cas officiellement, peut-être davantage. Il y a toujours pas de clim pour tout le monde. Pourquoi vous ne proposez pas un vrai grand plan clim pour tout le monde? Un jour, on est passé au chauffage. Pourquoi on passerait pas à la clim?
Non, mais d'abord, vous avez raison. Il faut lutter contre l'atténuation. Il faut atténuer le changement climatique, mais il faut aussi nous adapter. Et on peut pas faire l'un sans l'autre. Et on peut pas se dire qu'une fois que la France sera neutre en carbone à horizon 2050, on aura résolu tous nos problèmes. Il faut évidemment continuer à nous adapter. S'agissant de la climatisation, le débat n'est pas d'être pour ou contre.
J'ai l'impression qu'il est en train d'être dépassé, cette question-là, parce que d'abord les climats se sont améliorés en termes d'énergie et de gaz, mais aussi parce qu'effectivement, à un moment, il va falloir faire face.
Bien sûr, il serait absurde de s'opposer à la climatisation par principe et par dogmatisme. Simplement, ça peut pas être l'alpha et l'oméga de l'adaptation au changement climatique.
Non, mais sans être l'alpha et l'oméga, est-ce qu'on pourrait pas juste quand même commencer par le faire?
Bien sûr, mais d'ailleurs, nous proposons par exemple une baisse de la TVA sur les pompes à chaleur réversibles qui permettent à la fois du chaud et du froid en été. Ça, c'est dans le plan d'électrification prévu par le Premier ministre. Nous proposons également le développement de la géothermie qui permet de développer des réseaux de chaleur, mais aussi
des réseaux de fraîcheur.
Mais simplement, on ne peut pas dire comme Mme Le Pen, plan d'adaptation au changement climatique, c'est la clim partout, tout le temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord privilégier les solutions passives et évidemment, le cas échéant, et notamment pour les publics les plus fragiles, les plus vulnérables.
Mais est-ce que la clim n'est pas restée en France quelque chose qui serait pour les riches et les pollueurs, quoi? Alors que quand on va, ne serait-ce qu'en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, la clim, c'est populaire, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas cette idée que, en fait, ce serait que les méchants riches qui auraient la clim.
En tout cas, ça ne doit pas être tabou. Et je veux dire, on a pareil un avantage exceptionnel en France, c'est qu'on a une énergie qui est majoritairement décarbonée grâce au nucléaire.
Pourquoi les plus modestes devraient souffrir davantage que les plus riches?
Vous avez pleinement raison. Et d'ailleurs, en matière de changement climatique, ce sont en général les plus vulnérables qui trinquent. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a défendu des mesures que le Rassemblement National et la France Insoumise ne défendent pas, comme par exemple les zones à faible émission. Mais profitons en effet de notre avantage compétitif en matière d'électricité pour développer ce type de solution. Mais ça ne peut pas être la seule réponse que l'on apporte en matière d'adaptation.
Vous l'avez dit, il faut aussi, et bien sûr parallèlement, rénover les passoires thermiques et à l'inverse les bouilloires thermiques. MaPrimeRénov', parlons-en quand même, elle a vu son budget passer de 4 milliards à 2,5 milliards. Est-ce que vraiment ça suffit?
D'abord, MaPrimeRénov', elle n'existait pas avant Emmanuel Macron. On a rénové 1 200 000 logements. Il faut certainement aller plus loin, faire plus. Mais Vincent Jeanbrun, la semaine passée, a annoncé des mesures très importantes en matière de rénovation d'ampleur pour que, par exemple, les brasseurs d'air, pour que les isolations puissent être prises en compte. Je vous parlais des pompes à chaleur. Ce sera évidemment le cas. Mais un mot plus général sur les comptes. Si on n'est pas sérieux sur les comptes comme le fait le Premier ministre, demain, on ne pourra plus du tout investir dans notre pays. On ne pourra plus du tout se préparer à l'avenir parce que le monde qui nous attend, c'est malheureux, c'est ainsi. Mais le rôle des gouvernants, c'est de le prévoir. C'est plus 4 degrés à horizon 2100. Et moi, je veux qu'on soit capable de continuer à investir avec les collectivités locales, avec les entreprises, par exemple dans la rénovation des écoles, la rénovation des EHPAD.
La question, c'est aussi pour les agriculteurs. Bruno, qui nous appelle au 32-16 du Gard. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno, vous êtes sur le tracteur, là?
Oui, tout à fait.
Alors, vous commencez plus tôt et comment vous faites pour lutter contre la chaleur?
Ah ben là, j'ai un tracteur qui n'a pas de cabine. Donc, actuellement, on a adapté sur le tracteur un support avec un parasol.
Ah, vous avez mis le parasol sur le...
Oui, oui.
Si vous pouviez nous envoyer une photo, Bruno, ce serait sympa. Vous avez mis donc le parasol sur le tracteur. Vous roulez pas trop vite et c'est bon, ça tient?
Ah ben, ça tient nickel. Alors, on l'a adapté, on l'a accroché et là, ça ne bouge pas. Du moment qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souci.
Vous avez adapté les horaires, Bruno? Vous avez commencé à quelle heure ce matin?
Ouais, là, ben, 5h et je finis à 13h. Mais après, suivant la température qu'il va faire, avec l'outil que j'utilise sur le tracteur, je peux pas abîmer le raisin.
Et il ne souffre pas trop, le raisin?
Pour l'instant, ça va. Mais bon, avec des chaleurs comme ça, ça risque de brûler le raisin. Donc, et avec l'outil que je passe, ça va chauffer le raisin. Donc, on va éviter de travailler trop tard.
Donc, ne pas travailler trop tard, ça veut dire quoi? À 13h, vous êtes chez vous?
Ouais, 13h au plus tard. Peut-être même à midi, je vais arrêter. On va s'adapter avec le patron.
Avant que le soleil soit vraiment au zénith, quoi.
Voilà, tout à fait. Après, on s'adapte avec le patron. Le patron est très compréhensif, donc il n'y a pas de souci avec ça.
Merci beaucoup Bruno, on est très heureux de vous accompagner sur le tracteur, sous le parasol donc qui est accroché sur le tracteur. Là aussi, une question, les écoles, les agriculteurs, un certain nombre de métiers où c'est particulièrement difficile. 845 écoles et collèges qui seront totalement fermés aujourd'hui, 1800 qui libèrent les élèves dans l'après-midi, les oraux du bac reportés. Ça quand même, c'est une vraie question, pourquoi on n'a pas été capable de l'anticiper?
Écoutez, le gouvernement fait le choix d'une gestion au plus près des territoires, d'une gestion par les préfets, par les élus locaux. Précisément, le Premier ministre a réuni une cellule interministérielle de crise samedi dernier. Il le fera
à nouveau aujourd'hui.
Le ministre de l'Éducation nationale n'est pas pris de court par ce sujet. Des épreuves ont d'ores et déjà été reportées. Il faut évidemment que nous continuions notre logique d'adaptation. Et ça vaut pour toutes les politiques publiques. Et je voudrais dire à ce monsieur à quel point son propos démontre qu'il est absurde d'opposer l'agriculture et l'écologie, puisque les agriculteurs sont évidemment les premières victimes du dérèglement climatique, comme on le voit.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la transition écologique, il est 7h51. On est lundi, et le lundi c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis, bonne fête des pères.
Merci.
Parce que vous êtes devenu papa il y a quelques mois, et justement vous vouliez revenir sur le rôle des pères dans la société après les polémiques autour de ces joueurs de foot qui envisagent de quitter la Coupe du Monde pour aller être auprès de leur femme qui accouche.
Rien n'est plus important qu'un père et on a l'impression qu'aujourd'hui chez nos jeunes, rien n'est plus absent qu'un père, Apolline.
Vous nous le dites dans un instant, 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 sur RMC. Le bonus sur RMC, on a un message d'Emmanuel Macron.
Et avec Brigitte, on vous souhaite une très belle fête de la musique.
Eh bien merci Monsieur le Président, même si c'est vrai, c'était pas vraiment pour nous en réalité, mais pour les quelques centaines de personnes venues dans la cour de l'Élysée hier soir pour fêter la fête de la musique.
Regarde-moi.
Première performance du concert pour Monroe, la dernière représentante de la France à l'Eurovision, puis un flirt avec Marc Lavoine. Et enfin, ambiance plus techno, DJ Benz s'est même permis, allez, une petite moquerie devant le président.
For sure. For sure. For sure.
Et oui, Fancher, l'extrait d'un discours en anglais d'Emmanuel Macron qui avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Hier, fête des pères, un sujet de société qui s'est invité dans le mondial. Il y a le joueur belge Jérémy Doku qui veut quitter la sélection pour assister à la naissance de son premier enfant. Et à l'inverse, il y a un joueur norvégien qui a assisté à la naissance de son fils, mais en visio. Il n'a pas voulu y aller. Deux choix opposés. Que disent ces choix de nos pères modernes?
Alors, je dois l'avouer, Apolline, j'ai moi-même eu un père happé par une carrière absolument dévorante.
C'était votre père, Louis.
Et lors de la... François Hollande, d'ailleurs, je me bats pour qu'il me reconnaisse.
Voilà.
Et lors de la naissance de mon propre fils, j'étais noyé dans les derniers mois d'une campagne absolument acharnée. Donc, je peux comprendre qu'un joueur de foot rate une naissance pour participer au mondial. Je m'excuse d'ailleurs auprès de sa femme qui doit être pas d'accord du tout et hurler auprès de son poste de téléviseur.
Sur ce sujet, les Sarkozy n'ont donc peut-être pas de leçon à donner.
Alors c'est pas faux, mais c'est pas forcément la présence physique constante qui fait un père. En tout cas, pas seulement. Qu'est-ce qu'un père en vérité? Oui, c'est l'amour. Oui, c'est la présence. Mais c'est aussi la règle, le respect. La limite, bref, c'est une grande partie de ce qui manque aujourd'hui à tant de nos jeunes.
Alors, c'était d'ailleurs votre toute première fête des pères, vous êtes récemment devenu papa.
Merci de le souligner, Apolline, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ce sujet hante mes jours et mes nuits. Mon propre père était souvent absent physiquement, c'est un fait. Et pourtant, j'avais un père, vous comprenez, très net,
oui.
Très clair, très présent là où cela compte, dans les règles, les interdits, les regards quand je débordais. Il était peut-être même plus présent pour moi. Lorsqu'il était absent, paradoxalement, la structure qu'il avait créée demeurait malgré ses déplacements. Le père, ce n'est pas seulement l'ami du week-end qui joue au foot, c'est aussi l'architecte de nos contraintes.
Une sorte de surmoi. Le père moderne est justement plus présent qu'il ne l'a jamais été. Télétravail, congé paternité, garde alternée.
Alors c'est complètement vrai, comparé au père des années 50 ou 60, c'est incomparable. Physiquement, le père moderne est omniprésent. Mais dans son rôle de père, il ne l'est presque jamais. Nous avons aujourd'hui des pères qui sont des grands frères, des copains, des coachs de motivation, tout sauf des pères. L'amour paternel, c'est celui qui cadre, qui borne, qui frustre. Et c'est précisément par cette frustration qu'il fabrique des adultes. Pierre Valentin, dans Malaise dans la génération Z, paru chez Gallimard cette année, décrit une génération plus déprimée, plus anxieuse, plus fragile que toutes celles qui l'ont précédée. Parmi les causes profondes, rarement nommées, il y a l'effondrement de ces figures structurantes. Et la première d'entre elles, c'est le père.
Et c'est pas seulement le cas en France, hein.
Pas du tout. Il existe un exemple, peut-être le pire exemple d'ailleurs, absolument dévastateur. Aux États-Unis, dans les communautés afro-américaines, près de 70% des enfants noirs américains naissent de mères non mariées. Et une très large proportion grandit sans aucun père au foyer. Les conséquences sont parfaitement documentées par les études. Décrochage scolaire massif, incarcération, pauvreté, violence intracommunautaire. Quand un père disparaît, ce n'est pas seulement un homme qui s'absente, c'est tout un dispositif de transmission qui s'effondre. C'est l'échafaudage moral qui est délaissé. Et quand cet effondrement devient massif, c'est toute une communauté ou dans notre cas,
tout
un pays qui va
s'y... Vous faites un lien entre donc, l'absence de père et ensuite la dérive éventuelle des enfants. En
Bien
France,
sûr.
Comment vous voyez les choses?
Alors, la France entre à sa façon un peu dans le même couloir. Souvenez-vous des images qui font le tour du monde après la finale de la Ligue des Champions du PSG remportée fin mai à Budapest. Les Champs-Élysées dévastés, des magasins pillés, des voitures brûlées, des mortiers d'artifice tirés sur la police, 22 000 policiers et gendarmes déployés. Je regardais ces images et je me posais en vérité la même question qui revient à chaque fois. Mais où sont leurs pères? Enfin, moi, à leur âge, si j'avais fait un dixième de cela, j'en aurais immédiatement payé les conséquences. Et les conséquences, pardon de le dire, ce sont l'introduction à la civilisation. Les actes ont des conséquences. Tu dérapes, tu payes. Et ce sont les pères, plus que les profs ou que les policiers, qui sont chargés de l'enseigner en premier et de l'enseigner en priorité. Car l'enfant poussera toujours les limites. Il voudra défier l'ordre des choses. Le père se doit donc d'être l'avant-garde de la société auprès des enfants barbares qui tentent de l'envahir. Le père, c'est l'apôtre des conséquences.
Donc pour vous, au fond, le père, c'est la politique régalienne?
Les deux sont complémentaires. Alors bien sûr, il faut une plus grande politique régalienne, mais, et c'est tout aussi essentiel, l'État ne peut pas, l'État ne doit pas devenir le père. C'est exactement ainsi que l'on sombre dans l'infantilisation de l'électorat, et au bout du chemin, l'autoritarisme. Une société d'enfants finit toujours par devenir une société de tyrans. L'État protège, il n'éduque pas. Pour éduquer, il faut un père, un vrai. Et plus les pères assument leur rôle, moins l'État a besoin d'assumer le sien. Une société de bons pères, c'est une société qui a besoin de moins de policiers. Ainsi, la fête des pères ne célébrera pas seulement les hommes qui font des enfants, mais les hommes qui deviennent des pères.
Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, passé de 1 minute. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France au ralenti vraiment ce matin. Transport supprimé, 845 écoles fermées, des oraux du bac reportés, horaires adaptés. Et cette canicule exceptionnelle risque bien de durer toute la semaine. On va reparler dans ce journal de l'affaire Liana avant la remise des conclusions du rapport sur les défaillances policières et judiciaires qui ont conduit au drame. Et de la Coupe du Monde de football, les Bleus joueront, mais alors tard hein, ce soir, on verra ça, leur deuxième match contre l'Irak.
Nous venons de vivre la nuit la plus chaude depuis 7 ans.
Oui, c'est rendez-vous en terre inconnue. En fait, en ce moment, on atteint des niveaux jamais atteints. À 6 heures ce matin, il faisait déjà 33 degrés à Biarritz, après une journée qui avait déjà été la plus chaude de tous les temps dans certaines villes, avec plus de 35 degrés relevés dans les trois quarts du pays. Et alors, ce n'est que le début, car on attend encore plus aujourd'hui à Bordeaux, où vous êtes en direct et où il fait déjà très chaud, à Marion Gauthier.
Oui, 26 degrés ce matin, et malgré une brise légère, la sueur coule déjà sur les fronts et marque les vêtements. Régis est restaurateur, il souffle résigné.
Déjà en nage et je vais au travail. Le resto n'a pas la clim, non. Il a chaud déjà. Je suis déjà liquide, ça va être compliqué. On va prendre sur nous. Hein. En s'arrêtant, on ne sait même pas quand est-ce que ça sera la fin. Donc on espère qu'il y ait un bel orage.
Des salariés inquiets pour la suite. Claude est livreur de boissons sur le pont depuis 5 heures. Très rouge dans sa combinaison orange, il sort de la cave d'un bar.
Et il fait ouais, au moins 50 degrés dans la cave. C'est intenable. Ça commence bien aujourd'hui, le lundi déjà. Donc je pense que ouais, d'ici la fin de la semaine, ça va être vraiment très dur. Hâte que ça s'arrête un petit peu, la chaleur. C'est la deuxième en 2-3 semaines, canicule. Ouais, c'est terrible, ça va être très dur l'été.
Et pour aider à supporter cette chaleur, la mairie de Bordeaux étend les horaires d'ouverture des piscines, des parcs et jardins, accessibles parfois jusqu'à 23 heures. Des douches et des brumisateurs sont aussi répartis dans la ville, qui risquent de suffoquer cet après-midi avec 42 degrés attendus.
Dans cette ville de Bordeaux, département de la Gironde, où trois personnes âgées sont mortes hier, des décès qui sont liés à cette chaleur, selon la préfète de ce département. Alors Météo France parle d'une canicule exceptionnelle qui va se poursuivre, voire s'aggraver dans les prochains jours. Géraldine Demory, on ne sait toujours pas quand elle va s'arrêter, cette canicule, la ministre de la Santé le répète ce matin, mais on sait déjà qu'elle est pire que celle de 2003 qui est dans toutes les mémoires.
Oui, effectivement, pire que 2003 ou 2019, qui sont les canicules les plus importantes de notre histoire. Pire par son intensité, puisque le record absolu du 5 août 2003 devrait être battu. Là, dans les 4 prochains jours, on attend un indicateur thermique national qui devrait dépasser les 29 degrés. 29 degrés sur 4 jours, c'est quelque chose de totalement inédit. Pire également pour son étendue. On a 89 départements actuellement en vigilance rouge ou orange. C'est du jamais vu depuis l'instauration de la vigilance de Météo France en 2001. Sans doute aussi la pire par sa durée, puisque l'épisode actuel a commencé mercredi dernier. Et effectivement, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas de date de fin. Si on regarde les modèles de prévision jusqu'à 14 jours, on n'a pas de franche baisse de température, donc au moins jusqu'à début juillet. Donc c'est vraiment à cause d'un blocage anticyclonique. On a comme une poche au-dessus de la France, avec de l'air chaud qui s'emporte de sortie qui serait active sans arrêt.
Et puisque nous ne sommes pas équipés, eh bien on s'adapte avec tout un tas de conséquences. Dès ce matin dans les écoles, les collèges et les lycées, Lucas Laubert pour RMC, il y a énormément d'aménagements.
Et ça commence par les oraux du bac prévus aujourd'hui et demain. Ils sont reportés dans 5 académies, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Poitiers et Nantes. 5000 élèves en classe de première et de terminale ont reçu une convocation avec une nouvelle date d'examen, une semaine grand maximum après la date initiale. En ce qui concerne les épreuves du brevet des collèges qui démarrent vendredi et se terminent mardi prochain, pas de changement pour le moment, mais le ministère de l'Éducation nationale, joint par RMC, assure être très attentif à l'évolution de la situation. Seule une épreuve est prévue l'après-midi.
845 écoles et collèges sont fermés là ce matin. 1800 autres vont libérer les enfants cet après-midi. Il y a cours ce matin mais pas cet après-midi. Est-ce que les parents peuvent d'eux-mêmes garder les enfants à la maison?
Bien, Quentin, légalement, non. L'école reste obligatoire pour les enfants entre 3 et 16 ans, quelle que soit la température. Mais, Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, nuance. À titre exceptionnel, la bienveillance sera de mise vis-à-vis des parents qui décideraient de garder leur enfant à la maison en ce début de semaine, à condition de prévenir les écoles, bien sûr. Une politique de tolérance adoptée par les municipalités de Strasbourg. Les écoles restent ouvertes, mais la ville autorise les parents qui le souhaitent à ne pas emmener leur enfant à l'école cette semaine.
Alors, parmi toutes les conséquences, les transports en région parisienne, des suppressions prévues toute la journée dans les RER et les trains de banlieue, tous en fait sont concernés, sauf le RER A. Le risque de feux de forêt qui est élevé dans 17 départements, là pour aujourd'hui, près de la Méditerranée, c'est habituel, mais aussi dans le centre-ouest où un incendie a déjà brûlé 25 hectares durant le week-end. Il y aura une cellule interministérielle de crise qui se réunira dans la journée à Matignon. Et alors avant ça, eh bien, en fin de matinée, seront remises les conclusions du rapport sur les dysfonctionnements qui ont conduit au meurtre de la jeune Liana, il y a 3 semaines dans le Gers. Pourquoi le suspect Jérôme Barella n'a jamais été poursuivi alors qu'il était visé par une plainte pour viol sur mineur déposée l'année dernière? Julie Brault du service police-justice, on parle de défaillance judiciaire et policière, hein.
Oui, ces enquêtes permettant d'apporter un contradictoire peuvent viser chacune des personnes mises en cause par le rapport d'inspection, à commencer par la substitute chargée des mineurs du parquet d'Auch. La plainte pour viol déposée en août 2025 contre Jérôme Barella a mis 3 semaines à être ouverte et 1 mois et demi à être attribuée à un service d'enquête. Le garde des Sceaux pourrait proposer une sanction à l'encontre de la magistrate allant du blâme à la révocation, sanction qui devrait être soumise à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. La responsabilité de l'officier de police judiciaire chargé des investigations est également mise en cause par le rapport, alors que Jérôme Barella n'a jamais été placé en garde à vue dans cette affaire. Si une enquête administrative individuelle le confirme, le ministre de l'Intérieur pourra par exemple demander sa mise à pied ou sa mutation.
À l'étranger, la ville de Moscou, encore visée par une attaque de drones ukrainiens cette nuit, les 4 aéroports de la capitale russe fermés durant la nuit. La Russie qui a répliqué l'assaut ce matin en visant un cargo ukrainien qui a pris feu en mer Noire. La nuit agitée en Colombie avec des heurts et des drapeaux américains brûlés en réaction à l'élection du candidat de droite dure soutenu par Donald Trump à la présidentielle. Le pays était à gauche jusque-là. Tiens, puisqu'on parle des États-Unis, les pourparlers USA-Iran qui doivent se poursuivre toute la semaine en Suisse, les deux pays ont convenu cette nuit de trouver un accord de paix dans un délai de 60 jours.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors vous savez, c'est dans ce contexte que l'Iran a fait un pas vers la qualification en accrochant le match nul 0-0 hier soir face à la Belgique à cette Coupe du Monde. Dans le même groupe, l'Égypte a gagné 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, ça c'était dans la nuit. En attendant donc le deuxième match de l'équipe de France ce soir, très tard à 23h, ça va se jouer à Philadelphie cette fois, la France contre l'Irak, pays dont il faut se méfier, nous dit Didier Deschamps.
Je vous le dis, c'est pour moi, c'est pas une petite équipe. Déjà, ils ont été se qualifier au Mexique. Et puis, le premier match contre la Norvège, à la 75e, ils sont à 2-1. C'est une équipe qui a l'habitude d'un système avec des automatismes. Il y a des relations techniques entre les joueurs, parce que c'est pratiquement toujours les mêmes. Il faut pas penser que ça va être un match facile.
Et alors, Nicolas Pelletier, vous êtes un des nombreux envoyés spéciaux de RMC. Vous nous dites qu'à Philadelphie, c'est pas de la chaleur qu'on redoute, mais ce sont bien les orages ce soir et les Américains ne prennent aucun risque avec ça. Hein.
Oui, dès qu'un impact de foudre sera détecté dans un rayon de 13 km autour de l'enceinte où se déroule la rencontre, les autorités américaines demanderont à la FIFA de suspendre le jeu et de mettre à l'abri les 68 000 spectateurs du stade de Philadelphie. Un compte à rebours de 30 minutes sera déclenché. Pendant ce temps, les joueurs devront patienter dans les vestiaires pour que la rencontre puisse reprendre. Aucun nouvel impact de foudre doit être signalé durant cette demi-heure. Dans le cas contraire, le chronomètre repart à zéro. La FIFA n'a pas établi de délai maximum avant l'annulation du match. L'instance avisera sur le terrain et ça peut durer très longtemps. L'été dernier, lors du Mondial des clubs aux États-Unis, un match de Chelsea organisé à Charlotte avait au total duré 4h38.
Bon, et puis avant les Bleus, à 19h, la soirée commencera par Lionel Messi et l'Argentine contre l'Autriche.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h10 et c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, face aux canicules à répétition, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, lance une pétition pour réclamer un congé climatique. Ce serait quoi ça?
Alors le principe est assez simple, permettre à chacun de faire face à une canicule, mais pas seulement. Ça pourrait être inondation, incendie, avec en général des risques de fermeture d'école liés au climat, sans perdre de revenus. En gros, il s'agirait d'octroyer 5 jours de congé potentiel pour permettre notamment de garder ses enfants lorsque les écoles sont fermées. Mesure inspirée par la décision du gouvernement espagnol de Pedro Sanchez qui, en novembre 2024, a accordé 4 jours de congés payés en cas d'alerte météo. Alors, en théorie, la proposition n'est pas absurde. Les accidents climatiques sont amenés à se multiplier. Ils pénalisent les familles les plus modestes. On pense notamment aux familles à bas revenus, aux familles dans lesquelles il y a des mères célibataires, par exemple, qui sont contraintes de faire garder leurs enfants. Les risques d'accidents du travail sont plus élevés. Ça permet de me prendre soin des personnes les plus fragiles par le système de santé et par la famille, évidemment. évidemment. Et puis, le système ne serait déclenché qu'en cas d'alerte officielle. Donc, c'est pas, il fait chaud, je prends une journée, quoi.
Donc, ça, c'est la théorie, vous dites. Mais alors quoi? Il y a un problème dans la pratique?
Bah oui, parce que, en pratique, tout ça est pernicieux. La réalité, c'est que dans les entreprises, il y a déjà beaucoup de possibilités. Il y a les RTT, les congés familiaux, les congés enfants malades, les arrêts maladie, l'activité partielle dans certains cas, le télétravail. Il faut rappeler que le code du travail prévoit que une entreprise doit prendre soin de la santé de ses salariés. Donc, en réalité, ça existe un peu déjà. Et puis, l'exemple espagnol, il est dévoyé. Hein. Il faut rappeler que ce congé, en Espagne, il avait été créé à la suite des inondations de Valence. Il y avait eu plus de 220 morts à cause d'entreprises accusées notamment d'avoir maintenu leurs salariés au travail malgré les alertes météo. En fait, l'Espagne a créé un outil de sécurité civile. Les écologistes français proposent plutôt un nouveau droit social. C'est compliqué à gérer pour les PME. C'est inopérant pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les agriculteurs ou les professions libérales. Et puis, ça a un coût potentiellement élevé. Hein. Même si 20% des salariés étaient concernés seulement chaque année et prenaient 2 jours en moyenne, ça coûterait quand même presque 2 milliards d'euros.
Et dans les faits, hein, beaucoup de salariés s'adaptent. Bruno, tout à l'heure, qui est ouvrier agricole, nous disait qu'il en parlait directement avec son patron et qu'ils organisaient les histoires d'horaires. Les chiffres, alors, ça continue à descendre
oui,
ou pas,
oui,
Manu?
Oui, côté carburant, ça va plutôt pas mal. Hein. Le gazole, on est à 1,91. On est au plus bas depuis le début mars. Le sans-plomb, 95. On est à 1,90, 5 centimes en une semaine. On est au plus bas depuis la mi-mars, cette fois-ci. Par contre, pour le gaz et le pétrole, après le ouf de soulagement de l'accord de la semaine dernière, les prix se maintiennent. Donc pour le pétrole, on est à 79 euros le baril et le gaz à 43 presque euros le mégawatt-heure.
Merci Emmanuel Lechypre. Tous les jours, on suit évidemment comme le lait sur le feu les chiffres du carburant notamment. Il est 8h12, restez bien avec nous. Dans un instant, Arnaud Demange revient pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité, c'est le professeur émérite des universités spécialiste du Proche-Orient, Gilles Kepel. Essayez de comprendre ce qu'il se joue dans cet accord. Accord ou désaccord d'ailleurs entre Iran et États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que la guerre est finie? Je pose la question à Gilles Kepel qui analysera aussi les nouveaux équilibres du monde. Rendez-vous donc à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Ça, ce sera à 8h50. Mettre en contact des victimes de violences sexuelles. C'est ce que proposent certains sites internet avec un objectif pour rouvrir notamment tous les dossiers classés sans suite. Est-ce dangereux ou est-ce au contraire une initiative bienvenue de pouvoir se parler entre victimes? Ce sera en direct et on en parle à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 sur RMC et RMC Story, Arnaud Demange. Bonjour Arnaud.
Et bonjour Apolline. Bonjour à tous. Allez,
salut.
C'est la canicule, c'est cadeau. Je vous ai mis pour supporter. Voilà, ça nous manque la neige. Il fait chaud, il fait trop chaud, c'est horrible. J'écoutais le Morning tout à l'heure avec Élise Dangean et Victor Pourchet. Ils ont donné plein de bons conseils.
Ouais,
il y a plein
bon
de gens.
Le Morning.
Ah ouais.
Et vous êtes bien dans le Morning RMC et c'est la canicule. Bonjour Victor. Bonjour Élise. C'est la canicule. Alors, si vous êtes diabétique, ne sortez pas. Vous allez caraméliser. Si vous êtes flippe poison, ne restez pas seul. Sinon, vous allez avoir du mal à ouvrir un robinet pour vous hydrater. Voilà. Pensez à vous hydrater. Moi, j'ai bu plus d'eau en un week-end que Gérard Depardieu depuis sa naissance. Eh bien, merci Victor. Il n'y a pas de quoi, Élise. C'était un très beau morning. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez vu, ils ont remis la vasque olympique au Jardin des Tuileries hier. Super timing. Bravo, les gars. Le jour où il fait 40 degrés à Londres, ils allument un brasero géant en plein cœur de Paris. Hier soir, après avoir été voir la vasque avec ma femme, on s'est fait une petite raclette, histoire de...
Oui.
J'ai lu qu'ils voulaient la faire décoller. Mais avec le vent et la chaleur, ils ont renoncé. Ouais, ça aurait été con qu'elle file droit sur Notre-Dame. Oh ben non. Je viens de tout reconstruire en 5 ans. Et puis hier, c'était la fête de la musique. Il y avait un monde fou dans les rues parce que nous, par 40 degrés, qu'est-ce qu'on fait pour avoir moins chaud? Eh ben, on se réunit à 200 personnes par mètre carré et on danse et on s'agite. Alors avec la canicule, la vente d'alcool était interdite. C'est pour ça que moi, je suis resté chez moi.
Oui, bah oui, forcément.
Non, mais il y a que ça qui te fait supporter les chanteuses locales qui reprennent du Axel Red avec un demi-ton en dessous, très faux, ou le groupe des ados du quartier qui te massacre de Final Countdown.
Et oui, ils étaient en bas de chez moi, ceux-là. Ils filmaient pour vous.
Ah ouais.
Non, c'est pas vrai. C'est une vidéo YouTube.
Le candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, a tenu son premier grand meeting à Arnaud. C'était samedi au Parc Floral à Paris.
Ouais, ça avait l'air génial. Non, est-ce que c'était une bonne, est-ce que c'était une bonne idée de réunir des vieux de droite en pleine canicule? Ils étaient 3000 personnes au début du meeting, 2300 survivants à la fin. Non, heureusement, c'est pas vrai. Heureusement, Retailleau a brassé de l'air pendant 12 heures. Bon. Alors, le meeting a eu lieu sans les leaders de son parti. Pas Wauquiez, pas de Copé, pas de Xavier Bertrand. Mais par contre, il y avait des guest stars de ouf. Il y avait Boualem Sainte-Sall, François Baroin. François Baroin, la voix de Garou, le physique d'Harry Potter. C'est le seul homme de droite qui a jamais voulu se présenter à la présidentielle. Et il y avait aussi Michel Barnier et Valérie Pécresse et les jeunes avec Retailleau.
Ah oui?
Parce que ça existe. Et oui, moi je me demande toujours, ça m'éclate. Qui adhère à ça? Qui s'inscrit à... Salut, tu aimes les mocassins à glands, Jean-Pierre Raffarin, les chemises bleu ciel et le buis du fou? Super! Tu n'as pas d'amis? Alors rejoins des gens qui n'en ont pas non plus. En adhérant aux Jeunes avec Retailleau, tu feras partie d'un club dynamique de 9 personnes déterminées à transformer la France. Tu as loupé tes places pour Céline Dion? T'as de la chance, il reste des places pour Bruno Retailleau.
Ah.
Collage d'affiches, tracts, piñata en forme de président algérien, des milliers de raisons de s'éclater. Alors si tu as 40 ans et que tu n'as jamais fait l'amour, rejoins des gens qui te ressemblent, les Jeunes avec Retailleau. Ah.
Non, vous n'avez pas fait de jingle, je ne vous crois pas.
C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les Jeunes avec Retailleau.
Et puis ce soir, les Bleus rencontreront l'Irak.
Oui, la France qui affronte l'Irak, c'est Dominique de Villepin qui va pas être content.
Ah, c'est sûr.
Il va nous refaire son discours en début de match. C'est un vieux pays, la France, qui vous le dit, n'attaquons pas l'Irak. Eh ben si, on va le faire pour gagner. Alors, il n'y a pas un gros suspense. Statistiquement, l'Irak n'a jamais gagné contre la France en Coupe du Monde. Bon, ok, ils se sont jamais rencontrés, donc on s'y explique. Mais c'est comme moi, hein. Moi, j'ai eu zéro râteau avec Laetitia Casta. Eh ouais.
Eh ouais. Jamais rencontré. Parce que bon, jamais tenté.
Tiens, Apolline, je sais que vous êtes une femme de culture.
Oui, tout à fait.
Une femme d'histoire, une femme Barbara Gould. Eh bien, une petite anecdote historique.
Allons-y.
Sous le régime de Saddam Hussein en 81, plusieurs joueurs de l'équipe d'Irak avaient été envoyés en prison après une défaite face au Koweït. Putain, si nous aussi on envoyait les perdants en prison, il n'y aurait plus un seul joueur de libre à l'OM. Hein. Tu es là pourquoi, toi?
Et moi, j'ai tué toute ma famille, mes voisins et mes patrons. Et toi?
Oh, j'ai fait un mauvais dégagement contre le FC Metz.
Oh, t'es un monstre, le sang!
Voilà, avec cette vanne, je vais me faire virer par notre actionnaire marseillais sponsor de l'OM. Mais ça valait le coup, c'est l'humour.
Oui,
l'humour,
bien sûr.
Coluche, Pierre Desproges, Fred Hermel. Allez, courage au bleu. Et à demain.
Et à demain, Arnaud Demanche. Merci Arnaud, qu'on retrouve évidemment en podcast et en tournée partout en France. Attention, c'est World Wild. C'est Toulouse, c'est Besançon, c'est Saint-Etienne, c'est Lyon, Bordeaux, Nice, Aix-en-Provence, Gaillac et samedi à Morières-les-Avignons.
La tournée démarre.
Un spectacle RMC. Il est 8h22, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, ça se passe sur RMC et sur BFM TV parce que mon invité c'est Gilles Kepel. Gilles Kepel, le spécialiste du Moyen-Orient, avec ses pourparlers qui se sont terminés plus vite que prévu hier, même s'il y a eu des avancées. On en est où? Des accords ou désaccords entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce qu'on peut considérer que la guerre est finie? Et à quoi ressemble désormais l'équilibre ou le déséquilibre du monde? Gilles Kepel répond à mes questions dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités spécialistes du Moyen-Orient parce que pendant ce temps-là, eh bien, les négociations, les différentes discussions pour tenter de s'accorder sur une feuille de route et peut-être un accord, ça se passe en Suisse et on voudrait tout comprendre ce matin avec vous. Accord ou désaccord? Est-ce que la guerre est finie? Quel est le nouvel équilibre dans la région? Et quel est le nouvel équilibre ou déséquilibre dans le monde? Mais d'abord sur ce qu'il se joue en ce moment même en Suisse et pour toute la semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où on se parle, la guerre est vraiment finie? Alors que je voudrais qu'on revienne aussi sur les dernières déclarations de Donald Trump hier, on avait un peu du mal à suivre.
Oui, alors les déclarations de Donald Trump, c'est pas le spécialiste du Moyen-Orient, c'est plutôt le spécialiste de neuropsychologie qui doit s'en occuper.
Tant c'est
puisque
compliqué de suivre.
Après avoir insulté Madame Meloni, ensuite ça a été les Iraniens, bon, Emmanuel Macron s'en est bien sorti. Il a reçu à Versailles dans de la vaisselle dorée avec des couverts en vermeil. Et donc, il était calmé. Mais ça pose un vrai problème, cette façon dont le président des États-Unis fonctionne d'une manière très irrationnelle. Mais en tout cas, l'équipe qui est à Lucerne, au lac de Lucerne, du côté iranien comme du côté américain, sans compter les deux médiateurs qui jouent un rôle très important, ce ne sont pas seulement des médiateurs. Le Qatar, c'est lui qui va payer. Et le Pakistan, c'est le voisin de l'Iran qui a, lui, l'arme nucléaire. Et donc, on est dans une configuration assez particulière. Et les obstacles qui ont été mis hier par Donald Trump, qui a déclaré « je vais tous vous bombarder tout de suite si vous n'obéissez pas », les Iraniens ont dit « fais attention, surveille tes paroles, tiens ta langue », sont sortis symboliquement, mais sont revenus tout juste après.
C'était comme une sorte de suspension de séance avant de reprendre.
Voilà, en disant, au fond, c'est plus là l'enjeu. Parce qu'il me semble que pour l'Iran, aujourd'hui, la négociation est extrêmement importante. Ils font croire qu'ils ont gagné, enfin en tout cas ils le disent à leur population, que l'Iran national a résisté à la plus grande superpuissance, qu'ils sont résilients, etc., que Trump n'a pas gagné. Mais maintenant vient l'heure des comptes face à leur société. Et il y a deux choses en Iran qui se passent, il me semble, importantes. D'abord, la République islamique comme telle, elle n'est plus si islamique que ça. Le 28 février, la liquidation de l'ayatollah Khamenei, le père, et son remplacement par un fils qui est qui est un fantôme ou fantoche, on ne sait même pas s'il est là, hein, et qui est l'otage des gardiens, montre que le lieu de la décision n'est plus là. Le lieu de décision, il est dans l'establishment des gardiens et assez bien.
C'est-à-dire dans la partie militaire.
Militaro-politique.
Et non plus donc spirituelle,
oui,
si
c'est
je puis me permettre.
Voilà. Et on le voit du reste avec les photos que eux passent leur temps à diffuser de femmes dévoilées, si possible aussi blondes que ce soit. Vous voyez, ça c'est la propagande iranienne qui veut montrer que le régime n'est plus crispé sur cette dimension-là. Et ça s'adresse pas seulement aux spectateurs occidentaux, que c'est pas ça qui les importe, mais surtout à la société iranienne. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on réponde aux revendications qui, c'est celles du mois de janvier, et on va faire payer à travers le Qatar, les Occidentaux, pour les réparations. Et donc ça, pour eux, c'est un enjeu très important, parce qu'il faut bien voir que l'Iran est complètement à bout de souffle. Les Américains et les autres ont détruit des infrastructures en très grand nombre. Or, maintenant, on ne peut plus exercer, comme on le faisait pendant la guerre, la répression d'une manière indiscriminée. Il y avait des pendus partout en Iran.
Il n'y en a plus ou il y en a moins ?
Alors, c'est difficile de le savoir. Il faudrait encore être sur place, mais on n'a plus l'impression qu'il y en ait, en tout cas. Et ça n'est pas dans l'intérêt du régime. Le régime est maintenant dans une logique. On va se réconcilier. Nous sommes nationalistes. On a gagné. Vous voyez les images qui diffusent les drapeaux iraniens qui pavoisent partout. Ils ont absolument besoin de s'assurer que des versements vont leur être faits. Ce qui va
Quand je vous écoute, Gilles Kepel, ce matin, vous semblez dire quand même que dans la négociation, l'Iran n'est pas tant en position de force que on a pu l'entendre ces derniers jours.
Il dit qu'il l'est. Et là où ça va se jouer, en fait, c'est ce qui au Liban. Parce que ce qui fait achoper, ce qui a valu la sortie de Donald Trump, c'est que le Hezbollah continue à tirer sur Israël. Donc,
la formule de Donald Trump, c'est celle-ci. L'Iran doit immédiatement arrêter ses proxys, écrit en lettres majuscules, hautement payés au Liban, leur faire arrêter de causer des troubles. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très durement à nouveau, tout comme nous l'avons fait la semaine dernière, mais encore plus fort. Et quand il disait proxy, on pense évidemment Hezbollah.
Voilà, c'est le plus important de leur mandataire, si j'ose dire. Mais d'une certaine façon, dans son propos un peu délirant, c'est vrai. C'est-à-dire que le message, c'est de dire à l'Iran, on arrête sur le Liban. Parce que si le Hezbollah cesse d'attaquer Israël, s'il y a... Et on a déjà des éléments qui vont un peu dans ce sens-là, puisque Vous avez vu que hier soir, les Israéliens ont levé les alertes dans le nord d'Israël. C'est-à-dire, les rassemblements sont autorisés, etc. Mais l'Iran ne peut pas donner l'ordre au Hezbollah d'arrêter tout de suite parce que c'est un élément qui leur reste dans la négociation.
C'est une carte dans leur manche.
Voilà, c'est une carte. Donc, à eux de la jouer relativement finement. Dans un contexte où le maillon faible dans cette affaire, ça n'est ni l'Iran, ni les États-Unis, c'est essentiellement Israël. Puisque Bibi Netanyahou donc, se retrouve lui confronté à une échéance électorale soit le 20, soit le 27 octobre pour la Knesset. Les sondages ne sont pas bons. On a vu émerger un nouveau rival qui est l'un des anciens chefs d'état-major, un séfarade marocain qui s'appelle Gabi Eisenscott, qui est à 2 sièges après le Likoud pour l'instant, donc 21 contre 23. Mais le problème aujourd'hui en Israël, c'est que vous avez 120 députés à la Knesset et aucun de ce qu'on appellerait ici de l'espace central, d'une certaine manière en France, ne peut gagner soit les religieux, le bloc des religieux extrémistes, soit les 15 probablement députés que vont avoir les Arabes israéliens quand parce qu'ils présentent une liste unie. Donc ça crée un problème institutionnel extrêmement important en Israël qui fragilise la position israélienne de négociation.
Gilles Kepel, Benjamin Netanyahou qui a assuré hier que l'armée israélienne, je cite, resterait dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Est-ce que ça, c'est compatible avec les discussions?
Tout dépend de ce qu'on entend par aussi longtemps que nécessaire, bien sûr. Il ne peut pas dire autre chose, parce que dès qu'il dit autre chose, ses rivaux, même s'ils disent qu'ils sont plus à gauche que lui ou quoi que ce soit, le traite de valet, carpette, paillasson, et donc les États-Unis, il a traité
mais
récemment
Naftali
Bennett.
Est-ce qu'il veut du coup surprouver qu'il ne l'est pas?
Eh oui, c'est toute la difficulté pour lui. Il est pris dans une seringue, vous voulez. Et l'autre côté, pour Israël, le grand enjeu, c'est le nucléaire iranien. Parce que, évidemment, la dimension existentielle, c'est que si l'Iran peut mettre du nucléaire sur un missile interbalistique, évidemment, même la survie d'Israël est en question. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu du côté israélien. Or, c'est là l'un des éléments, c'est de savoir dans quelle mesure le nucléaire iranien est encore utilisable. Et un certain nombre d'individus, vous avez ce matin dans Libre Journal, le petit journal de Geoffrin, le spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade, bon, certains sont d'accord avec lui, d'autres non, c'est un géographe qui connaît bien son sujet, qui explique que le stock nucléaire iranien est aujourd'hui peu utilisable. Et que les Iraniens sont prêts, ils ont déjà à le faire diluer, à s'en débarrasser, ils ont compris
parce
que c'était...
Parce qu'il, de toute façon, il ne serait pas utilisable. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, ils n'y attachent pas un temps d'importance parce qu'ils savent que de toute façon, il n'est pas efficace?
Oui, aussi parce que l'état de destruction des installations qui a eu lieu pendant la guerre des 12 jours est très important. Il est plus difficile à récupérer, etc. Et en fait, l'enjeu pour eux n'est pas là. Il leur suffit de garder les missiles. Parce qu'ils n'ont plus d'aviation.
Balistique.
Voilà. Ils n'ont plus d'aviation, ils n'ont plus de marine, etc. Les missiles sont leur seul outil, si vous voulez, offensif ou défensif, qui peut leur peser militairement. Mais ça, l'utilisation peut s'en négocier. Donc, si vous voulez, vous avez cette dimension. D'abord, la question du nucléaire. Sérieux ou non, est-ce que ça va être dilué, confié aux Russes?
En tout cas, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que dans ce projet d'accord sur lequel ils sont en train de tenter de se mettre d'accord précisément avant qu'on ne puisse faire un accord à proprement parler, il y a écrit noir sur blanc. L'Iran réaffirme qu'il ne se procurera pas ni ne développera d'armes nucléaires. Et les deux pays affirment qu'ils discuteront d'un mécanisme permettant de traiter les stocks iraniens en recourant au minimum à une méthode de dilution sur place sous la supervision de l'AIE. La question, évidemment, est de savoir quel est le degré de confiance
si
que l'on peut avoir dans la parole iranienne sur ce point.
Et les Iraniens ont gagné du temps jusqu'alors avec le JCPOA, quand il a été supprimé, le fameux Joint Comprehensive Plan of Action que Trump avait déchiré. Les Iraniens ont fait de l'enrichissement ensuite discrètement en cachette. Donc, mais alors, c'est dit aujourd'hui politiquement, il semble que la question du nucléaire n'est plus un enjeu réaliste pour les dirigeants iraniens, parce qu'ils n'y arriveront pas. Et il est mieux pour eux de conserver les missiles et d'obtenir l'argent du Qatar et la garantie pakistanaise d'une certaine manière, vous voyez. Et c'est un enjeu de survie pour le régime nationaliste des gardiens. Sans cela, celui-ci va se trouver extrêmement fragilisé par rapport à une société que les gardiens mettent aujourd'hui en avant, mais à qui on va demander des comptes. Et vous voyez, c'est pour ça que l'Iran est dans une situation qui est aujourd'hui qui est moins simple. Ce que les Américains perçoivent à travers la manière un peu particulière de s'exprimer de Trump, mais il me semble que vous avez cette dimension-là qu'il faut bien comprendre, et l'autre qui est la fragilité israélienne, puisque Netanyahou n'est plus d'une certaine manière le seul maître à bord, puisque c'est un Netanyahou qui veut se faire réélire. Sinon,
puisque c'est un Netanyahou en campagne, avec donc la question de savoir s'il restera ou non. Est-ce que Netanyahou peut, alors il semble utiliser la question nucléaire iranienne comme un argument de campagne, puisqu'il dit tant que moi je suis élu, voilà, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Est-ce qu'il pourrait aussi faire la guerre seul, c'est-à-dire que maintenant que les États-Unis s'en retirent, est-ce que la tentation de poursuivre la guerre, au moins au Liban, seul, existe?
Ça va être très difficile. En Iran, c'est exclu, évidemment. Et au Liban, bien sûr, ils en ont la capacité, mais sauf si les États-Unis l'interdisent. Or, l'un des enjeux de la négociation, justement, après les 60 jours, c'est d'arriver à cela, c'est-à-dire à ce que or la possibilité que Israël ne frappe plus le Liban et se retire des territoires qui ont été occupés dans le sud du Liban, c'est que le Hezbollah soit contrôlé et ne bouge plus. Or le Hezbollah fait ce que Téhéran lui dit de faire. Donc ça va être toute la question des garanties que demande l'Iran pour retenir le Hezbollah, si vous voulez. Et l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est évidemment le détroit d'Ormuz. Là aussi, ça monte et ça descend. On fait monter la mayonnaise et puis ensuite on calme le jeu.
Donald Trump qui dit il n'y aura pas de péage, il n'y aura pas de droit de péage dans le détroit d'Ormuz, sauf si nous décidons, nous, Américains, de faire payer. Ça veut dire qu'il ne considère pas, en tout cas, qu'il puisse y avoir quelques péages que ce soit du côté iranien, et lui-même menace de faire une sorte de surpéage à la sortie.
Oui, de l'autre côté, oui, parce que il n'y a pas que les pétroliers, et bien sûr, c'est très important, le pétrolier. Vous avez aussi la base américaine à Bahreïn, et la base française aussi à Abu Dhabi. Vous imaginez l'amiral français ou l'amiral américain taper à la porte du capitaine iranien et dire voilà, est-ce qu'on pourrait sortir, est-ce que venez inspecter le bateau? Difficilement. Donc, et les enjeux de ce qui passe par le Golfe, qui concerne évidemment la souveraineté du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du malheureux Koweït, des Émirats Arabes Unis, etc. C'est très difficile de considérer que c'est simplement quelque chose qui doit être géré par un douanier omanais et
avec une question aussi qui est la question des sous, c'est-à-dire que si l'Iran ne récupère pas de sous à travers un péage à Hormuz, il les récupérera par ce déblocage, ce fameux déblocage des avoirs gelés. De quoi on parle en réalité quand on parle de ces avoirs gelés?
Oui, je crois que la taxe d'Hormuz, c'est un prétexte, parce que c'est pas là que c'est effectivement cette somme dite de 300 milliards de dollars, les gardiens estiment les dommages à 270, enfin ça vaut ce que ça vaut, qui seraient débloqués. Donc il y a un somme d'avoirs gelés du fait
en réalité, de l'argent iranien
qui est gelé, mais ça c'est d'une vingtaine de milliards seulement, qui est gelé un peu partout, en France par exemple, entre autres. Mais l'enjeu, c'est que le Qatar principalement et les Émirats ou l'Arabie Saoudite investissent dans l'économie iranienne, ce qui change complètement la dimension du Golfe. Ça veut dire que alors que le parapluie nucléaire américain a montré, ou enfin, le militaire pardon, américain a montré qu'il y avait des trous dans la raquette, qu'il savait pas grand chose, une option pour les Qataris, les Émiratis peut-être, mais surtout les Qataris et Saoudiens pour l'instant, c'est de se dire nous allons gérer la sécurité en faisant des investissements et en trouvant un modus vivendi.
Donc ils auraient un pied, en quelque sorte,
voilà,
en Iran.
Ce qui ferait que l'Iran rejoindrait l'économie mondialisée et ne serait plus un État voyou.
Et là, j'en viens, à ce que vous nous disiez. C'est très intéressant parce qu'au fond, ça fait écho aussi à ce que vous disiez au début de cet entretien sur des changements qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est-à-dire que tout le monde disait le changement de régime était un des objectifs du début, mais il a été complètement abandonné en cours de route. Mais si je vous entends bien, il n'y a pas un changement de régime, mais il y a dans les faits quand même une inflexion du régime. Et ce pied économique ou cette entrée économique dans le pays du reste du monde, est-ce que c'est pas aussi une manière en quelque sorte de changer le régime de l'intérieur?
Voilà. Et c'est en Iran quelque chose qui suscite des réactions. Vous avez vu, alors certains expliquent en Iran qu'il y a le camp des négociateurs, représenté plutôt par Khalibaf, qui est un doctorant de géographie, enfin docteur en géographie, donc président du Parlement, c'est ça, et président qui est plus important, si vous voulez, que Pezeshkian, le président lui-même, qui est plutôt protocolaire, semble-t-il, aujourd'hui. Et face à cela, vous avez un certain nombre de gens qui veulent rester fidèles à la logique religieuse, révolution islamique, etc., et qui ont dit, vous êtes tous des traîtres, vous allez tout lâcher, nous devons être un pays révolutionnaire, l'avant-garde du Sud, etc. Or, aujourd'hui, il semble qu'il y ait des négociateurs réalistes ou autres, qui disent maintenant, cette guerre nous a servi à nous débarrasser, paradoxalement, grâce aux Israéliens, aux Américains, ils ne vont pas le dire, des plus radicaux du régime. Maintenant, on va faire entrer l'Iran dans la prospérité, parce que l'Iran, avec les quantités de pétrole qu'il a, ce pétrole servant aux alliés vénézuéliens qui ne sont plus dans le coup maintenant et aux autres proxys de toutes sortes à travers le monde, ça n'est plus ce qu'il faut faire. Il faut que nous entrions aux meilleures conditions pour nous dans l'économie mondialisée et que nous soyons aussi prospères que les voisins arabes d'en face.
Presque ferait à nouveau partie quelques temps du concert des nations.
Voilà, enfin plus ou moins, mais nous n'y sommes pas. Mais à l'intérieur du régime, il y a un certain nombre de gens qui poussent là-dedans. Et il me semble que parmi les négociateurs, et c'est pourquoi il y a les négociations, c'est pourquoi Trump les ayant insultés, ils ont dit fais attention à ce que tu racontes.
Mais ils sont
revenus et ils reviennent. Alors donc oui, mais c'est un jeu avec toutes sortes de boules en même temps. C'est-à-dire vous avez la boule libano. Israélienne, comme on vient d'expliquer, et vous avez l'élément Hormuz, dont il me semble quand même que les Iraniens vont finir par céder là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas être dans une économie mondialisée s'ils bloquent, ils peuvent pas être à la fois des pirates et des commerçants.
Et commerçants.
C'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup Gilles Kepel, absolument passionnant d'avoir pu mieux comprendre avec vous. Vous êtes professeur émérite des universités et spécialiste du Moyen-Orient. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Et on va revenir sur les conseils.
Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. Nous reviendrons sur ces sites internet qui réclament le réexamen des plaintes classées sans suite par la justice pour violences sexuelles. Et puis les dernières infos avant le match des Bleus de ce soir. À tout de suite.
RMC Apolline Matin.
Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC. Le mondial d'Antoine, c'est avec vous, Antoine Sabardin. Bonjour Antoine.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, vous nous donnerez les toutes dernières infos sur le mondial avant le deuxième match des Bleus ce soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction. Et c'est avec vous Bérangère Bocquillon. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Chef du service société d'RMC. Les conclusions de l'enquête sur les nombreux dysfonctionnements dans l'affaire Liana vont être rendues ce matin. En attendant, le gouvernement a exigé le réexamen des 70 000 plaintes pour violences sur mineurs qui sont en stock et pas gérés. Et il prévoit aussi une nouvelle loi contre les violences sexuelles. Mais Bérangère, il y a aussi des initiatives citoyennes. Un site internet classé sans suite, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui recense des plaintes ignorées par la justice. Et ça n'est pas la seule initiative citoyenne, hein, Bérangère.
Oui, et pour que vous compreniez pourquoi ces sites rencontrent un tel succès, j'ai interrogé Sylvie. Elle a 53 ans, elle me raconte avoir été agressée sexuellement à 17 ans par son professeur de danse à la Compagnie des enfants du spectacle de Nice.
Je me suis blessée lors d'un cours et il m'a fait venir dans son bureau sous prétexte de me soigner. Et il a commencé à me faire un massage et en fait, il m'a agressée. Ça a été vraiment la sidération. Et puis, rapidement, j'ai oublié.
Le souvenir lui revient des années plus tard et c'est seulement il y a 2 ans, à 51 ans, qu'elle cherche à porter plainte contre lui. Mais l'affaire est prescrite, elle n'a aucune preuve et Sylvie connaît les statistiques, 86% de classements sans suite dans les affaires de violences sexuelles.
Je sais que je n'ai aucune chance si je suis toute seule, en tout cas. Et en fait, toutes ces années, moi, je me suis dit, mais je dois pas être la seule. Et au bout d'un moment, je tombe sur coabuse.fr.
Et donc, elle a connu coabuse.fr. C'est ça ce qu'elle dit. C'est quoi coabuse.fr? C'est un site internet qui vous met en contact avec d'autres victimes de votre agresseur. Et quand Sylvie envoie son message au site coabuse.fr, elle reçoit une réponse 48 heures plus tard qui lui dit que son message a matché avec celui d'une autre victime. Elle dénonce toutes les deux le même homme.
Et elle, ça faisait 4 ans et 4 mois qu'elle m'attendait, qu'elle avait rempli une fiche en citant le même homme. C'est un tel soulagement pour l'une et l'autre de s'être trouvées.
Sylvie a porté plainte l'an dernier avec 4 autres victimes, dont 2 pour des agressions non prescrites. Et ce professeur de danse est depuis un mois en détention provisoire.
Qui est derrière ce site coabuse.fr, Bérangère?
Eh bien, c'est un particulier, un bénévole, tout seul. Il a créé cette plateforme il y a 10 ans parce qu'il vivait dans le village du Père Prénat, dans le Rhône. Vous savez, ce curé qui a fait des centaines de victimes parmi les scouts.
C'est légal?
Oui, parce que c'est une correspondance privée, rien n'est public. Vous écrivez à ce bénévole via le site coabuse.fr et s'il a déjà reçu le message d'une autre victime du même agresseur, il vous propose d'entrer en contact avec elle. Il appelle ça « matcher ». Et grâce à lui, plus de 550 personnes ont reçu, comme Sylvie, un ou plusieurs matchs. On lui doit des arrestations de plusieurs pédocriminels, de violeurs. Et ce bénévole, il s'appelle Franck Favre.
Chaque match est une victoire parce que un match, c'est quelque chose de hyper bénéfique pour les victimes. Des gens même me disent que ça a changé leur vie pour toujours.
Mais ça ne devrait pas être aux enquêteurs de faire ce boulot-là. Ils ne devraient pas le faire, eux, Bérangère?
Bah peut-être. Hein. D'ailleurs, un haut magistrat me confie que cette plateforme était une très bonne initiative citoyenne. Maître Jean Sanier ne le sait que trop bien. C'est l'avocat de l'Association de défense des enfants, Innocence en danger.
La justice, elle est morte. Je ne dis pas qu'elle est en train de mourir. Je dis qu'elle est morte. Parce que ce cadavre n'est pas encore froid. Il faut que des citoyens s'emparent de ce qu'elle ne fait pas. Le parcours d'une victime est un parcours qui est extrêmement difficile. C'est un parcours qui vous abîme. Si vous entrez dans ce parcours seul, vous avez beaucoup de chances de ne pas arriver au bout. Parce que la justice ne va pas vous entendre, la police ne va pas vous croire. Lorsqu'il y a 2 personnes qui décrivent le même individu, il y a une crédibilité qui devient beaucoup plus importante.
Et si écrire à coabuse.fr est donc utile, les magistrats veulent rappeler qu'à la fin, la justice, ça doit se passer dans les tribunaux.
Merci beaucoup Bérangère Bouquillon pour cette enquête et ce reportage remarquable. Chef du service société d'RMC, il est 8h54, on parle foot.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Sabardin, toujours avec nous, le journal de la Coupe du Monde chaque matin. Et en ce lundi 22 juin, on commence forcément par parler de la France qui affronte l'Irak ce soir à Philadelphie.
Et oui, et le personnage le plus connu de Philadelphie, c'est qui? C'est Rocky Balboa, bien sûr. Trône en plein cœur de la ville de Pennsylvanie, une statue à l'effigie du plus célèbre des boxeurs de cinéma, un monument qui porte malheur, sachez-le. Les fans de sport américains ont appris à leurs dépens qu'habiller l'icône de la ville est loin de porter chance. Écharpe, maillot ou casquette, dès qu'un supporter recouvre la statue aux couleurs de son équipe, celle-ci finit par s'incliner. Malédiction de Rocky confirmée en début de mondial puisque les supporters équatoriens n'étaient visiblement pas au courant et se sont inclinés alors. Les supporters français qui se sont réunis devant cette nuit avaient un message, surtout ne pas draper la statue des couleurs françaises, message entendu, ça n'a pas été fait.
L'Iran jouait hier soir.
Oui, les Iraniens ont fait match nul contre la Belgique, 0-0, une grande performance pour les joueurs, un exploit qui va bien au-delà du sportif pour le sélectionneur Amir Khalenei, qui rappelle les conditions dans lesquelles cette équipe est arrivée au Mondial, visa compliqué, restrictions de déplacement, absence de match de préparation, beaucoup d'obstacles. Sachez par exemple que l'équipe est arrivée moins de 16 heures avant la rencontre face aux Belges à Los Angeles, avant de devoir reprendre la route vers son camp de base de Tijuana au Mexique. Homme du match, le gardien Alireza Behrendtvand, 7 arrêts dont un spectaculaire. L'Iran est toujours en course pour une éventuelle qualification en 16e de finale. Troisième match à Seattle vendredi où l'Iran pourra d'ailleurs arriver 2 jours avant et c'est une première.
Et puis Antoine, il y a eu 2 autres exploits cette nuit sur les pelouses américaines.
Tout à fait. Le Cap-Vert d'abord. Après un match nul contre l'Espagne en ouverture, voilà que les Cap-Verdiens qui disputent leur première Coupe du Monde, rappelons-le, ont accroché un autre champion du monde, l'Uruguay. 2 partout, les 2 premiers buts du pays au Mondial donc. Et une nation a débloqué son compteur de victoires dans cette compétition. C'est l'Égypte qui participe à son 4e Mondial en 2026. Et voilà les Pharaons qui ont remporté leur premier succès, 3-1, face à la Nouvelle-Zélande.
Enfin Antoine, il y a une nouveauté qui a du mal à passer dans ce Mondial.
Ouais, les pauses fraîcheurs, les fameuses, instaurées dans cette Coupe du Monde au nombre de 2, une par période, et forcées de constater constater qu'elles ne sont pas tout le temps nécessaires et que les acteurs ne sont pas emballés pour l'instant. Elles n'apportent rien et enlèvent beaucoup au football, a par exemple déclaré Marcelo Bielsa, c'est le sélectionneur de l'Uruguay. Pour Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, il estime que ces interruptions cassent le rythme des rencontres et favorisent les équipes dominées, à l'image de l'égalisation brésilienne face au Maroc lors de la première journée. Côté français, Kylian Mbappé est pour l'instant un peu mitigé. Il se dit peut-être que, comme toutes les nouvelles règles, ça va attendre.
Merci Antoine, Antoine Sabardin. France-Irak, 23h à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Avant match, dès 18h, et l'afterfoot, ce sera jusqu'à 5h du matin, RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Il est 8h57, dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline et bonjour à tous, les grandes gueules, dans un instant, bien sûr, avec nos GG et avec vous, on va parler de la canicule. Est-ce qu'il fallait fermer toutes les écoles ? La SNCF qui appelle les personnes vulnérables à ne pas prendre le train, faut quand même le faire, c'est le service public, faut le rappeler. Et puis le congé climatique voulu par les écologistes, ça fera partie de nos discussions bien sûr. Entre autres, on vous attend au 32-16, Joël Dagosséry sera là tout comme Emmanuel Le Villiers et Charles Consigny. Allez, à tout de suite avec les GG.